fini avant la fin de la page, donc on fait Bezrat Hashem, notre quatrième cours, sur le septième chapitre de Igaret Teshuvah. Donc je vais faire un petit point où on en est. C'est un chapitre qui est très important, puisque c'est un chapitre qui marque un tournant dans Igaret Teshuvah, comme ce qu'on a pu expliquer dans les trois cours précédents. Donc je voudrais faire un petit point rapide. Bonsoir. On a expliqué dans les six premiers chapitres de Igaret Teshuvah. Dans les six premiers chapitres de Igaret Teshuvah, on a expliqué d'abord qu'est-ce que c'est la Teshuvah. On a expliqué que la Teshuvah, ça veut dire décider de ne plus refauter. On a expliqué. On a expliqué qu'en parallèle à la Teshuvah, en complément à la Teshuvah, une fois qu'une personne a décidé de ne plus refauter, à l'époque du Beit HaMikdash, il y avait le sacrifice qui ne servait pas au pardon. Il servait simplement à être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Donc c'est un complément de la Teshuvah. Mais la Teshuvah à proprement parler, on avait expliqué plusieurs fois que c'est une décision qui dure seulement une fraction de seconde, un instant. Bon, en complément à ça, on avait le jeûne, le korban. Le korban par la suite a été remplacé, on a expliqué, par le jeûne. Le jeûne par la suite a été remplacé par la tzedaka. Et aujourd'hui, on a dit que on essaie de donner la tzedaka qu'on peut. Et au moins, le minimum qu'on peut faire, c'est au moins étudier la halakha de la Teshuvah. C'est ce qu'on a expliqué. Bon, ça c'était jusqu'au chapitre 3. Donc sur le papier, ça avait l'air relativement simple. Facile. Fais tes chouvas, tu décides, tu recommences plus. Sauf que les faits nous prouvent le contraire. C'est vrai qu'on croit que c'est facile, mais puisqu'on voit qu'on est en train de buter constamment sur les mêmes choses, donc les faits nous prouvent que c'est compliqué. Donc puisque c'est compliqué, donc la Gemara Zaken a dit, on va être obligé de tout déshabiller, de tout recommencer. Et avant d'expliquer qu'est-ce que c'est la teshuvah, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est le juif, qu'est-ce que c'est une mitzvah, qu'est-ce que c'est une avera. Et qu'est-ce qui se passe? Le rouage. Bon. Donc on a expliqué d'abord dans le chapitre 4, que le juif était créé différemment de tout le reste. Vous vous rappelez? On a expliqué que le juif n'a pas été créé par la parole, mais il a été créé par...
Le souffle.
Par le...
L'insufflement.
D'accord? Les âmes, comme ça. Non. Le juif. La neshama du juif.
Tous les juifs?
D'accord. C'est une image, bien sûr, hein, pas un insufflement physique. Donc, on a expliqué que c'est une méthode particulière qu'a pour l'âme Israël. Et insufflement, insuffler, ça veut dire quoi? Insuffler, c'est signe de profondeur. Ça veut dire que dès le départ, le juif est conçu différemment. Ensuite, on a expliqué dans le chapitre 5 et chapitre 6, longuement, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une mitzvah, qu'est-ce qui se passe lorsque je fais une avéra. On a expliqué que c'est pas simplement que lorsque je fais une mitzvah ou une avéra, j'embête Dieu, enfin je fais plaisir à Dieu ou je lui fais pas plaisir. C'est plus que ça. Je bouge quelque chose dans le rouage quand je fais une mitzvah. Quand je fais une mitzvah, je fais descendre de l'énergie. Quand je fais une avéra, on a expliqué, je prends de l'énergie et je la redistribue aux forces du mal. D'accord? Alors pourquoi c'est important pour la Gemara Zaken d'expliquer ça? Pour arriver au chapitre 7. Parce que maintenant, avec les éléments qu'on a appris, d'accord? Bezrat Hashem, à la fin, on refera un grand résumé, mais avec les éléments qu'on a appris dans les six premiers chapitres, maintenant la Gemara Zaken va commencer à donner des techniques concrètes, pratiques et réelles. Pour expliquer qu'est-ce qu'on fait maintenant de tout ce qu'on a appris. Ok, tu m'as expliqué le juif il est conçu différemment, quand tu fais une avéra c'est très grave. Oui mais dans les faits ça change pas, je vois pas que ma vie elle change. Je vois pas que j'ai peur quand je fais une avéra. Ah. Donc là c'est-à-dire que maintenant on va devoir se baser sur ce qu'on a étudié pour créer des techniques concrètes et réelles. Donc la Gemara Zaken a développé deux techniques.
Je le sens.
Allez, vas-y. Alors, ça. Donc la Gemara Zaken a développé deux techniques. Et je ne vais pas revenir en détail sur ces deux techniques. C'est David, il les a écrits, il va nous rappeler c'est quoi les deux techniques.
Vas-y, David. Première technique, comprendre l'enjeu.
Ah,
alors vas-y. Qu'est-ce que l'enjeu?
Classico, vas-y, explique-nous.
Alors l'enjeu, tu vas expliquer parce que...
Olympico.
Hein? Oui, vas-y, explique. Je te reprends s'il y a un problème, mais je pense pas que je vais te reprendre.
Bah, comprendre l'enjeu, j'ai pas bien compris l'enjeu.
Ah.
Mais c'est des footballeurs.
C'est...
Si on reprend l'exemple du footballeur...
Oui. Le gars il joue tout seul.
Qu'est-ce que le joueur doit comprendre?
Il doit comprendre qu'il a une équipe et qu'il va tourner le ballon,
voilà, ça
pour arriver au but.
Bon. Et que s'il commence à faire le malin et à jouer
mal,
à jouer perso par exemple,
ou à marquer chez l'adversaire,
bon, commence à vouloir faire ses règles, qu'est-ce qui va se passer?
Il va se passer qu'il va enrayer la machine et que.
Qu'il va perdre. Donc, ça c'est la première technique expliquée à Edmond Razaken. Comprendre l'enjeu. C'est pour ça qu'on doit essayer de. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué il y a trois semaines. On doit essayer d'élargir au maximum ses horizons. Ça veut dire que le joueur, c'est pas simplement qu'on va lui dire « Bon, il faut que tu gagnes. » Mais non. Si on gagne, tu sais, c'est ce qui va changer. C'est le ministre qui va dire ça. C'est les enjeux. Pourquoi c'est très important de gagner. On est d'accord? Donc, de la même manière, dans la Torah, C'est très important et c'est ce qu'on fait en Chassidout. On essaye d'élargir un maximum nos horizons. Pour que je comprenne que lorsque je fais une mitzvah, j'ai renversé le monde en bien, et lorsque je fais une avéra, j'ai renversé le monde en mal. Pourquoi on fait ça? Comprendre l'enjeu. Ça, c'est la première technique. Ça, on l'a développé longuement. Deuxième technique, et ça, on s'est arrêté sur ça la semaine dernière, c'est quoi la deuxième technique?
Casser son état.
Casser son état. Ça veut dire quoi, casser son état? Vas-y, David, continue.
Ça veut dire supprimer son ego.
Ah.
En d'autres termes, supprimer le je veux.
Le jeu. C'est bon, vous en êtes toujours là? Donc je répète. La Dmorazaken maintenant va se baser sur les éléments qu'on a appris dans les 6 premiers chapitres. Et il va nous donner des techniques concrètes, pratiques et réelles. Première technique, il faut élargir un maximum ses horizons pour comprendre un maximum de l'enjeu. C'est ce qu'on fait dans la Chassidout. Tout de suite, on essaye de partir dans des mondes, etc. Ah, reste tranquille où tu cours. Oui, parce que plus on élargit les horizons, et plus on aura de facilité à combattre le Yitzhara. Je joue gros, moi, je suis pas un petit. D'accord ? Ça, c'est la première technique. Deuxième technique, il y a des certains moments dans la journée, dans le mois, dans la semaine, chacun, comme on a expliqué, on doit casser son Yitzhara. C'est-à-dire quoi ? Casser son Yitzhara, c'est-à-dire prendre conscience, vous rappelez ce qu'on expliquait la semaine dernière, que le rachat est appelé maître. Très bien. Pourquoi le rachat est appelé mort? Pourquoi le rachat est appelé mort? On a expliqué que, à cause que le rachat, il a des mauvaises pensées, qu'est-ce qui se passe? D'accord? À cause de ses mauvaises pensées, il est considéré comme mort, ça veut dire qu'il n'a plus aucune vie, il n'est plus attaché à la réalité, à la vie d'Akadosh Baruch Hu. Sa seule énergie qu'il reçoit, c'est l'énergie qui vient des forces du mal. Rechaim bechayem kruim metim. Et là, on avait terminé sur ce concept la semaine dernière. On a expliqué que même si c'est une personne, a priori, qui ne fait pas d'avérot tellement grave, parce que bon, ça va, tu me dis, comprendre l'enjeu, après tu me dis, c'est quoi le deuxième, il faut me casser tous les jours. Pourquoi tu veux que je me casse? Qu'est-ce que tu veux, j'ai fait tes chouvas, Baruch Hashem, je suis un bon juif, je veux minyan. J'ai mis une race cet après-midi, Mignane, hein, David? On a le Baruch Hashem?
Baruch Hashem?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as besoin de me casser comme ça?
C'est pas un rachat, lui.
Et c'est là qu'on a expliqué, la semaine dernière, et ça, on va continuer aujourd'hui, l'histoire des nuages.
Pourquoi?
C'est quoi l'histoire des nuages? Qui se rappelle ça? Tu te rappelles des races des nuages? Très bien. Alors, c'est vrai que chaque nuage séparément, peut-être c'est pas, il bloque pas vraiment la lumière. C'est-à-dire qu'on fait des petites avérotes par-ci, par-là. C'est vrai que chaque nuage séparément, c'est pas le bout du monde.
J'ai eu un courant d'air cette semaine, j'ai eu la lumière. Tous les nuages sont partout, ah. Ils sont revenus après. Hein.
C'était après la Fabregan, non?
Sauf que... Maintenant, tu sais, tu plaisantes, mais il paraît qu'ils ont fait Birkat HaLevana hier soir.
Oui.
Avec la neige, je sais pas comment ils ont fait.
On a fait le vent. C'était très clair.
Pas comme vous avez fait. Et il neigeait.
Quand on entend les nuages disparaissent, tu vois la lumière.
Donc, qu'est-ce qu'on a expliqué? Le nuage.
Ils reviennent d'où?
Que là, la Dmorazaken est toujours dans la deuxième technique. Donc je vous préviens, on va prendre des claques. Voilà, aujourd'hui encore, on va prendre des claques. Dmorazaken, tout d'abord, a dit, oui, il faut savoir qu'on est comme un rachat, et que le rachat dans sa vie, il est appelé mort, et que ça veut dire que sa vie ne vient pas de la Kdusha, sa vie, elle vient de la Touma, et que ça, c'est à cause de mauvaises pensées, et qu'on a expliqué que lorsqu'on a une mauvaise pensée pour Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'on l'avait fait, d'accord, etc., etc., tout ce qu'on a pu développer la semaine dernière. Après, on a dit, oui, mais attends, ça va, on fait des efforts, etc., pourquoi tu me parles comme ça? C'est ça qu'a expliqué Dmorazaken, il a dit, écoute, même si une personne croit qu'il ne fait pas d'avérote très grave, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on refait la même avéra, ou bien plusieurs petites avérotes, entre guillemets, plusieurs petits nuages vont finir par créer un gros nuage. Un grand nuage. Et donc, de là on a expliqué, c'est pour ça que la personne, de temps en temps, doit se casser. Comme on expliquait la semaine dernière, comment ça se fait que quand je fais une fila, je dis Baruch Ata Hashem, ça ne me dit rien, j'en ai rien à faire. Pourquoi t'en as rien à faire? Comment tu peux dire j'en ai rien à faire? Si j'en ai rien à faire, ça veut dire que je suis mort. Que spirituellement je suis mort, donc rachat, karou, met. Ça s'appelle un rachat, ça.
C'est mieux qu'il fasse.
D'accord
ça.
C'est mieux
qu'il la fasse pas, là.
Non, j'ai pas dit ça.
J'ai pas dit ça.
Moi je vois les faits. Je vois les faits. C'est quoi quelqu'un de vivant, c'est quoi quelqu'un de mort? Quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un qui vit. Quelqu'un de mort, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vivre ce qu'il fait. D'accord? Spirituellement, c'est ça. Quelqu'un qui fait cette fille-là, il arrive à la vivre. Il est vivant, il n'arrive pas à la vivre, ça lui dit rien du tout, il en a rien à faire, il est mort. Ah, elle va dire, oui, mais j'ai pas fait tellement d'avérotes tellement graves, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, peut-être. Mais à force, avéra, chaque avéra rajoute un nuage. Et donc c'est quoi la teshuva? La teshuva, justement, ce qu'on va expliquer dans la suite, c'est essayer de supprimer un maximum de nuages. Les gens, ils pensent, teshuva, c'est, on envoie un gros courant d'air, tout va partir. Non. Ça, c'est le sentiment d'Eshua, peut-être. Que bon, je me sens que je m'approche d'Akadosh Baruch Hu. Mais après, il y a un travail. C'est quoi le travail? Nuage par nuage, couche par couche. Ça va prendre très longtemps.
Quel rapport il y a entre le fait de la tuyère qui ne ressent rien et le fait que...
Bah, c'est très simple. C'est que, normalement, il y a une communication. Il y a une lumière qui vient d'Akadosh Baruch Hu à Maneshama. À force de mettre de la verrotte, on expliquait, c'est ma mâche comme ça, c'est le prophète, je mets des nuages. Donc plus je mets des nuages, et plus je bloque la lumière. Donc tu bloques la lumière, et à un certain moment, il n'y a plus de lumière, la Neshama ne voit plus rien. Donc elle dit Baruch Ata Hashem, elle dit, de qui tu parles? Je sais pas de qui je parle.
D'accord, donc mort, ça veut dire que tu bloques la lumière.
Ah oui, mort, ça veut dire je vois plus rien, ça ne me dit plus rien, je comprends
mais
pas
la, ce que la Neshama en elle-même, c'est pas une source lumineuse qui suffit?
Non, la Neshama en elle-même, c'est une machine qui est toujours là, elle marche toujours la machine.
Alors,
et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'essence. Tu comprends, tu bloques tout. Il n'y a plus d'essence. Donc elle tourne à vide, ça fait plus rien.
Elle produit pas l'essence tout seul?
Non, pas du tout.
Non.
Elle a besoin de communiquer. Ça, c'est ça le grand problème. Ça, on a expliqué, c'est le plus grand piège du rachat. C'est qu'après, pourquoi on n'arrive pas à faire tes chouvas? Comment c'est qu'on n'arrive pas à faire tes chouvas? Pourquoi on n'arrive pas à faire tes chouvas? Parce qu'on est tellement pris dans nos avérots, tellement il y a des nuages qu'on n'en a plus rien à faire. Et ça, c'est le pire.
Ah oui, c'est ça.
Tant qu'on en a à faire, tant qu'il y a une communication, on peut encore essayer de récupérer. Mais dès qu'il n'y a plus de communication et qu'on n'a plus rien à faire, c'est fini.
Ah, écoutez, Marie, c'est
bon. Ça, c'est l'histoire des nuages. Ce qu'on a expliqué la semaine dernière. Alors maintenant, on va expliquer l'Admora Zaken. Ou Mikol Sheken. Puisqu'on parle de nuages, et on a expliqué que plusieurs petits nuages forment un gros nuage, à plus forte raison si chacune de nos avérotes est un gros nuage. Alors on va donner maintenant des exemples de gros nuages.
Blizzard.
D'accord. Blizzard.
Le blizzard.
D'accord. Alors, cette ligne avant la fin.
Tu vois plus devant toi, c'est le brouillard.
Donc Mikol Sheken Amfour Samot Midivrei Razal.
C'est plus dans le brouillard.
À plus forte raison, les avérotes qui sont sur lesquels, il y a des avérotes sur lesquels les Rahamim n'ont rien dit. Bon, donc ils n'ont rien dit, on pense que c'est pas très grave, on croit que c'est un petit nuage. Même sur ça, on te dit qu'un petit nuage, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait un gros nuage. Mais à plus forte raison, quand c'est des grands classiques qu'on va voir tout de suite, Amfour Samot Midivrei Razal, des avérotes qui sont connus, que les Rahamim nous en parlent. Shen Mamash Kavodazara Vegilou Yarayot Shfuchut Damim. Il y a certains avérotes qu'on va citer tout de suite, que le Chachamim nous dise que ces avérotes-là s'apparentent à Avodazara, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, l'adultère, Shvichut Damim, le meurtre. Alors je ne parle pas d'une personne qui fait ces trois avérotes, bien sûr. Je parle d'avérotes que les Chachamim nous disent, d'accord, qui sont comparés à ça. Ça veut dire quoi? On va donner des exemples. Et chaque exemple, vous allez expliquer ce que
c'est.
On a donné déjà.
Vers Michel Oebe?
Non. Ouais, oui, on est arrivé ici, là. Là.
Ah.
Bah, ça, on a déjà lu la semaine dernière. Voilà. Vekacha, mama, un pour sa mauvaise vie. Donc, il y a certaines avérotes sur lesquelles les Chachamim disent que c'est des avérotes qui sont considérées soit comme la Vodazara, l'idolâtrie, soit comme l'adultère, ou soit comme Shurudamim, le meurtre. Est-ce que vous avez des exemples, avant d'avancer?
La colère,
très bien, c'est comme la Vodazara. Bon, ça c'est un classique. Je vous ai d'autres exemples.
Si, répandre le sperme inutilement, ça c'est le meurtre.
Ça on a expliqué ça. Ça on a expliqué que répandre le sperme inutilement, comme tu as dit, c'est
le meurtre.
C'est Chayamita Bideshamaim ça.
Oui, mais c'est le meurtre.
Ça c'est évident, ça c'est un big nuage. Ça même pas besoin de le dire ça. Ça c'est un.
Bon,
ça, oui, c'est
le big machin.
Ça c'est évident. Ça.
Oui.
D'accord.
Alors. Guy, t'as une idée non?
Bah, j'essaie de déchiffrer.
Alors,
je te dirai si jamais je.
Alors on va voir la suite. D'accord. Kémo, comme par exemple, je vais vous donner un premier exemple. C'est intéressant parce que le cours de Tania, il a toujours un rapport avec ce qui se passe à Beth Rabat dans la journée. Vous verrez tout de suite pourquoi. Je sais qu'il était là ce matin. Je garde après. Kémo, comme par exemple, Alamat Aïn Minatzaka. Alamat Aïn Minatzaka, ça veut dire ignorer la Tzedaka. C'est-à-dire quoi ignorer la Tzedaka? D'accord. Alors, la Gemara dans le traité Ktuvot a dit la chose suivante, Rabbi Yehoshua ben Korchai dit là-bas, il dit tout celui qui ignore la tzedaka, il voit quelqu'un qui a besoin,
il peut donner,
et il fait comme si... Non,
attention. Il le regarde.
Il fait comme si qu'il n'a rien vu. Ah, pas vu.
S'il n'a rien à la poche.
D'accord.
Il ignore.
Qu'est-ce qu'on dit? Keilu oved avodat kochavim. C'est comme si qu'il fait avodazara.
Mais attends, s'il
quel rapport avec avodazara?
Qu'il y a de l'argent et qu'il ne donne pas.
J'aurais dit plutôt le meurtre.
Il ignore.
J'ai pas dit ça.
Il ignore s'il ne donne pas.
Pour l'instant, on traduit. D'accord? Alamat Aïn Minatzaka. Alamat Aïn, c'est-à-dire fermer les yeux devant la Tzaka. Donc comment vous voyez, c'est quoi le problème ici? Le problème c'est de ne pas donner la Tzaka ou d'ignorer le fait qu'on a donné la Tzaka. Et qu'est-ce qui se passe si au début j'ai ignoré et après j'ai donné? Ça s'appelle la Gemara, mais bon, je veux comprendre. Oui. A priori, le plus important pour vous, c'est quoi? C'est de vouloir donner la tzedaka ou de donner la tzedaka?
A priori, on dirait c'est donner, mais en vérité, c'est de vouloir donner.
Attendez. D'abord, moi, je veux des... question, ouais. Moi, je veux des preuves dans la Torah. C'est quoi la mitzvah?
Donner.
D'accord? Donc, peu importe ce qui se passe dans ta tête, on n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est que tu donnes. C'est quoi l'interdiction ici? L'interdiction, c'est « alamat ayin min tzedaka ». Ignorer la tzedaka. Oui, mais si j'ai ignoré et après j'ai donné? Je fais comme si j'en ai rien à faire, je dis « bon, tu sais quoi, je vais lui donner ». J'ai déjà fait une avéra. Alors, c'est pas une avéra à proprement parler, parce que il n'y a pas vraiment d'avéra minatora. Minatora, il n'y a pas d'avéra, puisque la mitzvah, c'est le donner, j'ai donné. Mais les quelques secondes dans lesquelles j'ai voulu ignorer, c'est comme si que je fais à Vodazar. Comment
donner,
ça se fait?
On ne doit pas donner comme ça bêtement.
Quand, bien sûr. Ça ne s'appelle pas ignorer, ça s'appelle réfléchir, ça. Pas la même chose.
Oui, mais ça s'appelle aussi ignorer pour le moment.
Non. Non, j'ignore pas. Je dis bon, il faut que je réfléchisse. Ignorer, ça veut dire je zappe.
On va retenir ce mot.
D'accord? Zapper.
Ça, je vais réfléchir.
Allez hop, il ne m'intéresse pas, je ne donne pas. D'accord? C'est pas la même chose. Ah la mat, ça veut fermer les yeux. Donc le rabbi pose la question, il dit comment ça se fait? Il dit comment ça se fait que l'interdiction ici est d'ignorer la tzedaka. Je veux dire, c'est pas ça l'interdiction. L'interdiction, c'est de ne pas donner. Peu importe si t'as ignoré, ce qui compte, c'est est-ce qu'il a donné ou est-ce qu'il a donné ou il a pas donné.
Surtout qu'après il a donné.
Bah oui, surtout que c'est possible qu'après il a donné.
Donc il a réfléchi.
De là on comprend. Que l'essentiel dans la mitzvah de la tzedaka, bien sûr que si on voit ça dans le pshat, la mitzvah, c'est de donner. Mais le plus important dans la mitzvah de la tzedaka, c'est pas de donner. C'est la kavana que j'ai dans mon cœur. Ça veut dire, est-ce que ça me touche ou ça me touche pas? Ça veut dire comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'on a des fois des gens qui veulent donner, mais qui n'ont pas de quoi. Je veux donner, j'aimerais donner. J'aimerais donner à tout le monde tout ce qu'ils ont besoin. Amen? Mais j'ai pas de quoi. C'est-à-dire que là, la volonté est là, mais l'argent n'est pas là. D'accord? Ça veut dire que je ne l'ai pas ignoré. Mon cœur y est, mais l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas d'argent. Ça, c'est une première catégorie. D'un autre côté, vous avez une personne que son cœur n'y est pas, mais comment il va donner? Cette personne-là, pourquoi il va donner? Il va donner parce que peut-être parce que c'est un phénomène de société, ou parce que il aime bien qu'on dise qu'il a donné, ou parce que ça le dérange de voir une personne qui souffre, etc.
Non, oui, d'accord, il fait la mitzvah.
Oui, voilà. Il fait parce que bon, on l'a éduqué comme ça.
Non, il va.
Sauf que, qu'est-ce qui va se passer? Le jour où ça va se répéter une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, 20 fois, tous les jours, qu'est-ce qui va se passer? Ça y est. C'est nous, ça. Tu sais, à un certain moment, t'as plus envie. Pourquoi t'as plus envie? Parce qu'en vérité, d'accord, je donne pas parce que je suis concerné, que moi j'ai envie de donner. Donc c'est pour ça que c'est quoi la vera ici? Alamat ayin minat zaka. Alamat ayin minat zaka, ça veut dire quoi? Ça veut dire ignorer la tzedaka. Parce que quand j'ignore la tzedaka, ça veut dire quoi? Quand j'ignore la tzedaka, ça veut dire que je me dis que mon argent, c'est mon argent, d'accord, et que ça m'appartient à moi. Donc ça s'apparente à quoi d'après vous maintenant? Ah bah d'accord, Ravim, Vodazara. D'accord? Parce que à première vue, on aurait pu dire que ignorer la tzedaka, c'est comme un meurtre. Parce que tu as empêché de donner l'argent à quelqu'un, donc tu l'as presque tué. Non, c'est pour ça que je vous ai dit. On ne parle pas forcément ici de quelqu'un qui n'a pas donné. Peut-être qu'en fin de compte, il a donné. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les pensées qu'il a eues dans les premiers instants, dans lesquelles il a dit, je ne donne pas.
Mais il a pu donner le maaser. Et c'est après le maaser où il a ignoré.
On ne parle pas du maaser, là.
C'est ce que je te dis. Il peut ignorer alors d'accord. Qu'il a déjà donné le maaser.
Eh ben oui, on ne parle pas du maaser, on parle de la tzedaka. Ça n'a rien à voir.
C'est un bonus.
Non, c'est un bonus.
Il a mérite d'avoir donné quand même.
Un bonus, c'est la casse.
Sûr.
La
femme, ça, c'est alors encore une fois.
Alors, ce que ça amoindrit pas.
Non, alors, je sais. Une bonne question que tu poses. Bon, alors maintenant, on va analyser celui-là. La Gemara nous dit que cette personne-là, c'est comme si qu'il a fait Avodah Zara. Ça veut dire quoi, c'est comme si qu'il a fait Avodah Zara? La Gemara Zaken, il a un pirouche extraordinaire. Mais si vous voulez savoir, ça veut dire quoi, que c'est comme si qu'il fait Avodah Zara? Ça veut dire qu'il va créer un nuage aussi fort que le nuage de l'Avodah Zara. Ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut pas dire qu'il a fait Avodah Zara. S'il avait fait Avodah Zara, ses chameurs auraient été coupés, etc. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Tu veux savoir ce que ça veut dire quand on dit que c'est comme si qu'il fait Avodah Zara? Ça veut dire qu'il va créer un nuage, il va créer une coupure, une séparation entre Dieu et sa Neshama, aussi grande que s'il avait fait Avodah Zara.
Quand est-ce qu'il y a des éclaircies?
D'accord.
Il y a beaucoup
de nuages. Ouais, là, c'est deux ou trois semaines qu'on parle que des nuages. Hein. On n'a pas parlé des rayons de soleil. Hein.
En même temps,
on voit un peu en ouais. Lumière.
En même temps, c'est...
Oui. Même quand on fait la fille là, on a pris...
En même temps, quelqu'un qui n'a pas de nuages, c'est... Après, c'est
oui, mais après, ça dépend combien de nuages on a. Moi, j'étais impressionné de quelque chose aujourd'hui. J'étais impressionné comment ce matin, c'était tout était plein de neige partout et on se demandait combien de temps ça allait durer. À quelle heure avait plus de neige? À 2h l'après-midi? Je sais pas, en 2h comme ça, en espace de 2h, tout a fondu comme si de rien n'était.
Comme sur NT, non, mais bon.
Attends, dehors, comme si de rien n'était, excuse-moi.
Ça dépend où tu marches. Là, non, mais là, je veux dire, ça existe
pas. D'accord, mais c'est pratiquement comme si de rien n'était. Comment, à quelle vitesse ça peut partir? J'ai eu l'image comme ça, je me suis dit.
Attends,
j'ai eu deux images avec la neige, deux secondes. Une première image, c'est dimanche. Quand j'ai vu comment la neige a tout couvert. Comment la neige a tout couvert. Je me suis dit, attends, comment. La neige, elle vient, elle couvre tout, tout devient blanc. D'accord? Et c'est écrit qu'à Kadosh Baruch Hu, il va nettoyer nos fautes comme la neige.
C'est des petits cocons, hein, t'as remarqué?
Oui, mais attends, comme la neige. Ça veut dire quoi comme la neige? Ça veut dire quoi? La neige, elle vient, elle couvre tout, tu vois, tout est blanc, c'est fini, il n'y a plus de problème. Comme Bisputi m'a dit ce matin, il m'a dit, si tu marches dans la rue, normalement, il y a des crottes de chiens, tout ce que tu veux là, tu vois, tout est blanc. T'as plus rien, ça y est.
Blanc comme neige.
Mais d'un autre côté, regardez comment ça a fondu. Donc, on a deux messages ici. Pour nous montrer que même si des fois un nuage il nous paraît énorme, il peut partir facilement. Certes. Alors, non, je reviens à ce qu'on a expliqué.
Attends, excuse-moi, mais
oui.
Par rapport à ce que tu dis, je voudrais un éclaircissement.
Un éclaircissement.
Peut-être d'accord. Que la solution pour pas créer ce gros nuage, c'est de jamais de faire de grosses dakas, parce que toi, imagine-toi par exemple.
Jamais faire de quoi?
De grosses dakas. Par exemple, on va faire un appel pour la synagogue, pour faire le local, etc. Les gens, ils vont s'engager sur 500, 1000 euros, 2000 euros, etc. Moi, je m'engage sur 50 euros. Je crois que quand il vient pour son mariage, tiens 10 euros, tiens 10 euros, tiens 10 euros, tiens 10 euros. Je suis tranquille, toi, j'en ai pour l'année.
T'as pas compris, là.
C'est pas ça. Non, j'ai pas compris, mais quand même.
Non.
À un moment donné. À un moment donné, faut bien équilibrer. Après, il y a un autre truc pour lequel tu donnes tous les mois. Après, il y a un truc que tu donnes tous les mois. Après, il y a un truc que tu donnes tous les mois. Après, il y a ceci, il y a cela. À un moment donné, tu vas pas tout le temps. Tu comprends? Si tu donnes, tu donnes, tu donnes.
Les pauvres de ta ville, ils passent avant. Tu voulais avoir une réponse assez claire.
Mais alors, s'il passe avant, ça veut dire que
le maître Abad, il passe avant. On reprend l'attaque.
Alors, si le maître Abad, il passe avant, les gens qui viennent, etc., que tu as ignoré, qu'est-ce que je te dis?
J'ai l'ignoré. Tu peux lui donner 2 euros avec un sourire.
Ça s'appelle pas ignorer.
Ça s'appelle pas ignorer.
Si tu n'as
pas
d'argent,
t'as pas.
C'est pas ignorer. Je sais pas si tu peux donner 2 euros.
À un moment donné, ça se rejoint.
Si t'as donné moins que
je sais pas si tu peux donner 2 euros.
Bien sûr, tu peux. Ah, il te jette à la figure.
Et si t'as donné moins que ce que tu pouvais donner?
Non, c'est pas ça qu'on parle.
Non,
je veux que ce soit clair. Non, c'est pas ça.
Que ce soit clair.
D'accord. Ah, la mat aïn minat zaka, c'est un sentiment.
C'est très subtil.
C'est un sentiment dans lequel je dis je zappe. Je m'en fiche. Après, il y a un calcul à l'intérieur, combien je peux me permettre de donner, et j'ai des frais qui m'attendent, etc. C'est autre chose. C'est-à-dire que je suis concerné, et je considère ça comme une dépense. Et de la même manière, je rentre dans un magasin. Je rentre dans un magasin, je vais faire mes courses. D'accord? Je vais acheter quelque chose qui coûte cher. Je vais calculer. Est-ce que je peux l'acheter? Est-ce que je peux pas l'acheter? C'est normal de calculer. Il n'y a pas de problème.
Pour les autres.
D'accord? Donc, à forcerie pour les autres. Il n'y a pas de problème avec ça. La question, c'est est-ce que je zappe ou pas? Je dis ouais, ça m'a pompé, ça m'a cassé les pieds. Là, c'est un problème. Encore une fois, j'ai pas fait d'Avera. Avera, si, texto. Ah non, j'ai pas fait d'Avera.
Une espèce de nuage,
non, pas du tout. Parce que peut-être j'ai pas. Peut-être j'ai zappé, j'ai pas. Dans ce cas-là, j'ai pas fait d'Avera.
À partir de combien on considère que t'as donné? Est-ce qu'il y a une somme minimum?
Mais peu importe, non, il n'y a pas de somme minimum. Donner, c'est donner. Alors, ça, ce qu'on a expliqué. Alors, encore une fois, non mais laissez-moi finir. De quoi on parle ici? On ne parle. Ça c'est extraordinaire, le sujet de Morazakin ici.
C'est d'accord, c'est celle qui fait un peu mal. Si ça fait pas mal du tout, c'est pas. C'est
bon, une... on va donner un autre exemple après. Regardez, la colère. Mal, la colère, c'est comparé à quoi?
Avodazara.
Est-ce que c'est assour, la colère?
Bien sûr.
C'est une des 613 000 votes qui dit c'est assour, tu ne t'énerveras pas?
C'est marqué que Hachem, il peut pas.
Attends, réponds à ma question.
Mais la colère, tu comprends.
Non. Est-ce qu'il y a une des 613 000 votes qui dit tu ne t'énerveras pas?
Il y a 7 péchés capitaux.
Y a pas.
Alors,
comment c'est possible?
On comprend que c'est une rébellion.
Attends,
les 113 commandements, c'est par rapport à des actes.
C'est quoi ces définitions? Vous allez voir que tous les exemples qu'on va citer ici, c'est des exemples qui, a priori, alors à part 2-3 exceptions, mais dans la majorité, c'est pas des mitzvot ni des avérantes. Et pourtant, les rachamim disent, ouais, celui qui s'énerve, comme Avodah Zara. Celui qui ignore la tzedaka, c'est comme Avodah Zara aussi. C'est quoi, c'est comme? C'est même pas une avéra. C'est même pas une avéra.
Si, parce que pour le premier commandement, si tu crois en l'éternel ton Dieu, si tu te mets en colère, ça veut dire que finalement tu crois pas que c'est Dieu qui dit.
Ça veut pas dire ça,
Je crois en Dieu, je crois en Dieu.
Énervé,
voilà. Je suis énervé, il m'a énervé.
Oui, on étudie bien que tout ce qui nous arrive, c'est bien de Dieu, donc si on s'énerve,
d'accord.
On se met en colère.
Par les cochers, après tu peux aller où tu veux avec ça. Je suis d'accord avec ça.
Ah, dans les faits, dans les...
Moi, est-ce que c'est une décision de 13 000 votes?
Non.
Est-ce qu'une personne qui s'énerve, il va arriver en haut, on va dire, bon monsieur, décompte d'Averot, voilà, tel jour vous êtes énervé.
On étudie la race.
Pas du tout. Alors moi je te dis pas du tout. Quand il arrivera en haut, on ne le dira pas, monsieur, dans la balance, tel jour vous êtes énervé. Pas du tout.
Oui, ça a des conséquences.
Il n'est pas favori d'Azara, c'est pas une Avera.
Et en plus, c'est vrai qu'il y a des personnes où ils
ça a des conséquences.
D'accord. Il n'est pas favori d'Azara, c'est pas ça. C'est un grand ridicule de Morazaken. Je pense que sans ça, on ne comprend pas.
C'est une conséquence.
On ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui tient la qui fait Avodah Zara? C'est même pas une Avera.
Il oublie, il oublie,
Écoutez bien. Il explique que justement, c'est quand on dit que c'est comme si qui fait Avodah Zara, ce qu'on a expliqué, ça veut dire que ça crée le même nuage, la même séparation entre l'aneshama, entre le juif et Dieu, comme si qu'il avait fait Avodah Zara. Ah, c'est autre chose.
Une Avera, d'accord, ça peut pas être un nuage de séparation.
Bien sûr. Dans une Avera, il y a deux choses.
Et pourquoi, d'accord, finalement?
Dans une Avera,
il y a l'interdit.
Voilà, il y a l'interdit.
Et la conséquence.
Et il y a la conséquence.
C'est le nuage.
D'accord. Là, on se dit qu'une Avera, comme la Kola, par exemple, qu'on va expliquer, ça a le même impact. C'est-à-dire que ce qui va se passer dans ma tête à ce moment-là, c'est comme si j'ai fait Avodah Zara. C'est-à-dire que j'ai pas fait Avodah Zara. C'est un générique. C'est quand on en parle, un générique. Comment il dit ça?
Donc, je n'ai pas la faute.
Oui, c'est un générique. D'accord.
Je n'ai pas la faute.
Tu n'as pas la faute, mais c'est l'effet de la faute.
L'effet.
Alors, c'est pour ça que c'est plus facile à réparer. Parce que j'ai pas la faute. Mais j'ai l'effet de la faute. Voilà, tu veux savoir comment il sent quelqu'un quand il fait Avodah Zara? Exactement le même sentiment que tu as quand tu t'énerves. Même chose.
Donc ça donne des possibilités déjà de réparation.
Eh ben oui. Et tu veux savoir comment quelqu'un il sent lorsqu'il sert une grosse Avodah Zara? Eh ben c'est pareil, lorsqu'une personne s'énerve énormément. C'est la même chose.
C'est clair.
Ça c'est le nuage, c'est ça le nuage.
Donc ça se répare.
D'accord. Mais non, c'est pas la même chose.
C'est moi,
oui, parce que si tu disais que c'était comparable au meurtre à la Avodah Zara et... Le troisième, c'était
L'adultère.
L'adultère. Effectivement, si, c'est-à-dire que ça, on comprend le niveau. Il y a aussi quand même une action réelle.
Oui.
Alors que là, on est déjà dans un degré qui a certes pareil, mais
oui,
qu'on peut réparer. Donc,
bien sûr, oui. Bien sûr qu'on peut réparer. Mais ça a le même effet. Ça veut dire qu'une personne, après qu'il vient, ouais, une personne, il vient de s'énerver le matin.
Excuse-moi, le meurtre, tu peux pas le réparer. Le meurtre, tu as tué la personne, quoi qu'il arrive, il y aura un démarche.
Tu as raison, on peut réparer. Mais ça veut dire comme ça. La personne, il va le matin, il se lève, il tape du pied gauche, il s'énerve sur tout le monde. D'accord? Il s'énerve sur tout le monde. Et après, il vient faire sa prière. Ben, c'est comme si qu'il vient rentrer à l'église. C'est le même effet.
Oh, la Avodah Zara ou la... Tu peux pas réparer les actes qui sont là.
Bon truc. Bon image.
C'est mon razaké.
C'est comme s'il a fait la tuile à l'église, voilà.
Non. C'est comme si qu'il vient de faire un petit tour par l'église avant. C'est ce qu'il dit.
Il s'énerve après.
Il passe, à l'entrée de la synagogue, il y a un pauvre. Il le regarde avec un air dédaigneux, du suis je te zappe.
Un juif, en bas?
Un juif, disons. Un juif, ouais. D'accord. Bah, pareil, c'est comme si qu'il a fait un petit tour à l'église avant de passer. On a dit,
c'est bien comme exemple, ça.
Mais c'est ce qu'on vient de dire ici. J'invente rien du tout, c'est la Gvara qui dit.
Oui, d'accord.
C'est-à-dire que c'est pas de la blague. Parce que, vous savez, c'est quoi le risque? Quand on dit aux gens, c'est comme si qu'il fait Avodah Zara, ils disent, oui, bon, c'est comme si, ça va.
Mais il n'a pas fait la Avera, quand même.
Ça va, c'est comme si, quel rapport?
Il n'a pas été à l'église, quand même.
Ah oui. Mais l'effet que ça a sur sa personne, la séparation que ça fait, le fait que la personne, après, se sent déconnectée. Voilà, je me sens déconnecté. C'est la même chose. C'est le même effet. Alors, on va continuer un peu dans les mots.
Tu dis ça parce que tu n'as jamais été dans une église, excuse-moi.
J'ai jamais été, vraiment.
Je ne savais pas cet effet-là.
Moi, je dis la Gmara. Hein.
Ça fait quoi, concrètement?
Non, je parle l'effet déconnecté. D'accord, comment ça déconnecte?
Ça fait, c'était angoissé, mais c'est pas déconnecté.
Comment chez Katouf, comme c'est écrit, en tout cas par rapport au nuage. Comment chez Katouf, comme c'est écrit. Donc je répète, pour la Tzedaka, de quoi on parle ici? On parle pas de la mitzvah de donner la Tzedaka. Ça c'est une mitzvah. Ça n'a rien à voir avec Avodah Zara. On parle d'une personne qui ignore la Tzedaka, mais que peut-être il finira par donner. Mais il a ignoré pendant un certain temps. Le fait d'ignorer, c'est considéré comme l'Avodah Zara. C'est-à-dire que son cœur n'y était pas. Donc ça, c'est un premier exemple. Donc, déjà, on a expliqué la semaine dernière que plusieurs petits nuages peuvent faire un grand nuage. Maintenant, on va expliquer qu'il y a des big nuages, que nous, ça nous paraît un petit nuage, mais en vérité, c'est un big nuage. Pourquoi? Parce que le Rahamim t'ont dit, attention, c'est l'Avera, tu crois que c'est pas une Avera, mais en vérité, ça fait un effet comme si c'est l'Avodah Zara. Premier exemple. Comme Moshe Katoub, comme c'est écrit, à propos de la Tzedaka, Ishamer lecha peniye davar imivavra blial vegomer. Donc c'est écrit dans la paracha Re'e, garde-toi, d'accord, fais attention, de peur que peniye davar imivavra blial, de peur que ton cœur viendra te détourner. Le terme blial, c'est un terme qui correspond à quoi? Au blial, ioved avodat gilulim. Avodat elim. Blial, c'est un terme qui correspond à l'avodat zar. Donc voilà un premier exemple. D'accord, donc là, rappelez-vous, ça c'est toujours dans la deuxième technique. C'est quoi la deuxième technique, monsieur David?
Bah, supprimer le jeu.
Donc on doit se... Cassé. Voilà. Ouais, là, ça, c'est les grands classiques, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Bon, on va continuer encore. Attendez, on n'a rien dit encore.
Mais pourtant, on dit toujours, mais est-ce que tu sais ce que tu veux?
Va mettre sa paire, dignout travero. suivre le jeu, si tu veux, bah rien.
On a fait quoi, là? On a fait une Xerashava, c'est ça? Entre deux Psuki?
Non, c'est pas une Xerashava, c'est que le terme Blial est un terme qu'il utilise en général pour la Vodazin.
Il est utilisé dans la Torah par ailleurs pour la Vodazin.
Ouais. Alors, deuxième exemple de nuage qui nous paraît small, qui nous paraît pas du tout un nuage, mais en vérité c'est un big nuage énorme, d'accord? Donc là on va citer des exemples de meurtres, etc. Alors, Vame Saper, Bignou Travero. Une personne qui raconte Bignou Travero le mal de son ami. Raconter du mal de son ami. Hi Lachanara. C'est le Lachanara. Ah, parce que après, attention. Regardez bien comment la Morazaken dit. Amé Saper Bignou Travero, celui qui raconte du mal de son ami, donc c'est du Lachanara. C'est-à-dire que c'est quoi selon la Morazaken, c'est quoi le Lachanara? C'est quoi le Lachanara? C'est parler du mal de son ami. On va voir.
Peut-être que c'est vrai d'ailleurs ce que tu dis, mais tu l'as dit.
On va voir. Ashkula, Kavodazara, Vegilou Yarayot, ou Shvichut Damim. Le Lachanara, c'est comparé aux trois ensemble. Avodazara, l'adultère, et Shvichut Damim et le meurtre. Alors on va essayer d'expliquer. D'accord? On va essayer d'expliquer, d'abord, je voudrais vous rappeler juste une histoire.
David,
d'accord. Une histoire qu'on avait étudiée dans un des cours de jeudi matin. On avait expliqué que Rachid se posait la question, comment ça se fait? C'est écrit, voyez, Kizaken Yitzhak va tirer Ena Enav Mirot. Lorsque Yitzhak a vieilli, d'accord, Dieu lui a enlevé la vue. Donc Rachid pose la question, il dit, pourquoi Dieu lui a enlevé la vue? Il donne trois réponses. D'accord. Alors, il donne trois réponses. C'est quoi la troisième réponse? La troisième réponse, c'est, il nous dit, que des Sheitol et Sav Yaakov et Abrachot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a aveuglé Yitzhak? Pour que Yaakov prenne les Brachot. Pourquoi? Parce qu'en d'autres termes, sinon Yitzhak aurait vu que son fils Esav est un rachat, donc du coup, il lui aurait pas donné les Brachot. Donc pour que Yaakov prenne les Brachot, qu'est-ce qu'on a fait? Que Yitzhak ne voit pas, comme ça il voit pas, ben Yaakov il est venu, il s'est déguisé, etc. Il a pris. Alors Rabbi pose une question très simple. On avait étudié jeudi matin. Il a dit maintenant. Il y a une solution plus simple. Il y a une solution beaucoup plus simple. De toutes les façons. C'est quoi le but ici? Le but ici, c'est que Yaakov prenne Brachot. Ah, pourquoi Dieu ne peut pas envoyer un petit message à Yitzhak? Il lui dit attention. Et Esav, tu crois que c'est un tzadik, c'est un rachat.
C'est plus simple.
Donne-la à Yaakov. Pourquoi on est obligé de faire ce truc-là? Il a perdu sa vue pour ça, selon la troisième explication de Rachid. C'est au niveau d'un tzadik, mais quand même, pourquoi? Quel message on a tiré d'ici? Le message qu'on a tiré d'ici, c'est à tel point on doit faire attention à la Shonara. Akadosh Baruch Hu dit, moi, c'est pas moi qui vais lui dire que son fils n'est pas bien. Si lui le trouve et qu'il découvre, c'est son affaire. Mais moi, je vais pas lui dire, je vais pas faire la Shonara. Regardez jusqu'à où ça va la Shonara. D'accord? Il y a une petite histoire qu'on raconte, on dit une fois.
Il aurait découvert, on peut aussi dire que s'il n'avait pas aveuglé.
Je pense franchement qu'il ne savait pas.
Non, mais il peut juste dire donner à Yaakov.
Non, mais
il peut
juste
dire donner à Yaakov.
Il ne savait pas que c'était à ce point. Non, non, c'est clair qu'il ne savait pas, on l'a aveuglé, il ne voyait pas.
Il peut dire donner à Yaakov sans lui dire donne à Yaakov.
Non, mais non, lui veut le donner à Esav. C'est son aîné. C'est son aîné.
C'est le
Bechor.
Dans la paracha, Menaché et Ephraïm, c'est la même chose.
D'accord.
Pourquoi tu lui donnes pas?
Parce qu'il a vu un message, Yaakov. Yaakov a eu un message du ciel, pourquoi il a fait ça à Yaakov? Parce qu'il a eu un message, on lui a dit non, c'est lui qui passera avant. Ce message, on ne l'a pas donné.
Attends, il y a plein de cas
Il a
plein de cas dans la Torah où on te sort des trucs à dormir debout, tu crois pas, on te dit, oui, mais tu sais, Yitzhak, c'est un grand sadique, Karol, c'est un grand sadique.
Oui.
Il savait pas où un Kodesh, que pas Patati, Patata. Ah, oui, mais... Tu dis, oh là, t'es sûr? Bon, ok, je le crois. Et là, son fils est arraché, il sait pas lui.
Bah, Yitzhak
avec nous.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il
veut pas le voir.
Non, c'est qu'il sait seulement ce qu'on lui montre.
Il y a aussi un autre message derrière ça.
Il y a des choses qu'on lui montre pas.
Si Hachem lui montre pas.
Oui, Hachem lui montre pas.
Non, mais il y a un autre message
derrière. Hachem, il veut pas lui montrer. Après, bien sûr qu'Hachem a ses calculs derrière pour qu'il fait tout ça. Ça, c'est bon. Attendez, on va pas quitter le sujet.
La différence entre Ephraïm et Menaché, c'est pas comme Ephraïm.
Bien sûr, c'est pas un rachat. Il n'y a pas un rachat ici dans l'histoire.
Et la différence, comment Ephraïm, il aurait pu accepter que de lui, il y ait un tel rachat? Peut-être qu'il l'aurait affecté.
Bien sûr.
Donc c'est pour ça aussi, il voulait pas peut-être toucher Ephraïm. Il y a tout ça que tu peux prendre en compte, c'est pas
alors, je voudrais vous raconter deux anecdotes pour illustrer ça.
Donc il est mort, il traque sans savoir qu'il avait...
Une première anecdote, allez messieurs. Une première anecdote, une fois on a proposé au fils d'un rave, qui était déjà d'un certain âge, qui était fini la yeshiva, marié, etc. Donc on lui a proposé, est-ce que lui aussi voulait devenir rave? Et son père a mis droit de veto, et dit, non, laissez-le tranquille encore pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir du lachonara sur lui. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question à son père.
C'est la chose.
D'accord. 30 secondes. Il y a quelqu'un qui a posé la question à son père, il lui a dit, mais pourquoi vous pensez qu'on va parler du Lashon Hara sur votre fils? Il est bien votre fils. Elle a dit, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Elle a dit, si les gens étaient à l'époque d'Avram Avinu, vous savez c'est quoi le Lashon Hara qu'ils ont dit sur Avram Avinu? Ils auraient dit, celui-là, il est capable de tuer son fils si Dieu demande. Ça veut dire à tel point les gens avec le Lashon Hara sont capables de faire n'importe quoi. Il y a aussi une deuxième anecdote, toujours sur le Lashon Hara, pour nous montrer comment c'est... Une fois, il y a quelqu'un qui est rentré chez le rabbi, et le rabbi lui a posé la question, il a dit, alors comment il va un tel? C'était son cousin. Comment il va ton cousin? Comment ça avance dans ton Torah Mitzvot? Alors il lui a répondu, il a dit au rabbi, il a dit, il me dit qu'il met les tefilines tous les jours. Le rabbi, il a crié. Il a dit, ça veut dire quoi, il te dit qu'il met les tefilines tous les jours? Si il te dit qu'il met les tefilines tous les jours, ça veut dire qu'il met les tefilines tous les jours. Donc tu dois me dire, il met les tefilines tous les jours. Sur quoi il me dit, Zerma, il me dit, bon, mais...
Ouais, qu'est-ce que c'est un sous-entendu, hein. Je le crois pas trop.
Ça veut dire que ça marche pas comme ça. D'accord? Alors, je suis en train d'expliquer.
Excuse-moi, il ment.
Non, pas du tout. Pas du tout, il ment pas. Alors, justement, c'est quoi?
Lui dit, donc
on va essayer de parler un petit peu plus du Lashon Hara. C'est quoi le Lashon Hara? Est-ce que vous savez, pour comprendre la gravité de la vera du Lashon Hara? La Gemara nous dit que le travail des Ketoret, vous savez, la avoda des Ketoret qu'on faisait le jour du Yom Kippour, c'est ce qu'il y a de plus sacré dans l'année. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, quand on lui dit qu'il rentrait une fois par an au Kodesh HaKodashim, le endroit le plus saint, qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Il faisait la avoda des Ketoret. Pourquoi il faisait cette avoda des Ketoret? La Gemara dans le traité Yoma, elle dit la chose suivante. Elle dit que Yavo Davar Shebechashai, Veyechaper Almaaseh Chashai. Que vienne quelque chose qui est fait en cachette, donc la ketoret qui est fait en cachette puisque personne ne le voit, et qui pardonne tout ce que nous faisons en cachette. Sous-entendu, Rachid, de quoi on parle? Lashon Hara. Lashon Hara qui est fait en cachette. Alors c'est quoi le Lashon Hara? Comment la Nourazakin comprend Lashon Hara ici? Le Lashon Hara, d'accord, c'est de dire d'une autre personne quelque chose qui va lui faire du mal. Alors, il faut bien faire la différence entre Rechilut et Lashon Hara, c'est pas la même chose. Rechilut, c'est colporté. C'est de quoi colporté? Colporté, ça veut dire que par exemple, quand... Je vais raconter à Yaakov quelque chose sur David.
Je vais pas répéter.
Bon.
Du bien.
Oui, colporté, je colporte. Ça s'appelle colporté. Donc là, on est combien de personnes à être concernées parce qu'il se passe?
Trois
personnes. Ça, c'est Rechilut. C'est encore autre chose. Là, on parle de Lashon Hara. C'est quoi Lashon Hara? C'est, je vais aller voir David directement. Tu sais, les gens, ils disent ça sur toi. Sans dire qui. Mais voilà. Que tu sois au courant. Les gens, ils disent ça sur toi.
C'est pire en toi.
D'accord.
Ouais, parce que c'est un doute.
Les gens disent ça sur toi. Ça veut dire le fait même de raconter l'histoire, sans que tu saches même de qui ça vient.
Ouais, là tu m'as affecté. Là.
D'accord. Sans que tu saches même de qui ça vient.
C'est vrai.
Alors, sans que tu saches même de qui ça vient, c'est déjà Lashon Hara. Sauf que, alors écoute, et ça c'est la chita du Admor HaZaken, parce que pas tout le monde est d'accord avec ça. La chita du Admor HaZaken, c'est qu'on fait le Lashon Hara seulement si on le raconte dans l'intention de blesser la personne.
Quelle personne?
Ça veut dire que je raconte quelque chose à David et je sais que c'est quelque chose qui l'énerve.
C'est méchant.
D'accord? Alors je vais vous donner l'exemple qui dit Maïmonide. Voilà. Maïmonide donne l'exemple suivant. Ici j'ai le langage. Alors, par exemple. Imaginez-vous qu'on est à table en train de discuter ici. Je dis oui. Où il y a de la lumière partout? Il y a toujours de la lumière, même la nuit. D'accord? Alors je vais vous dire comme ça. Echad Natsur, c'est-à-dire. Je dis, ah, vous savez où il y a de la lumière partout? Il y a toujours de la lumière. 24 heures sur 24, n'est-ce pas? C'est dans la maison d'un tel, qui lui, chez lui, il y a beaucoup de poissons et de viande. Point.
Du bénis. 5 pour lui.
Alors, voilà. comment on comprend là?
La lumière et le poisson.
Pour lui. Comme ça veut dire qu'on, je parle d'autre chose. Ça n'a rien à voir. On va parler, tu sais chez qui il y a beaucoup de lumière? La lumière 24 sur 24, c'est chez lui. Chez lui, lui aussi, il a beaucoup de poissons.
Ça n'a aucun intérêt, parce que savoir où il y a de lumière, où est-ce qu'il y a de
exactement.
Lumière, ça n'a aucun intérêt.
Alors, lui dit l'Admor HaZaken, il dit, dans son Shulchan Aruch, il dit que si, quand je le dis, il y a une connotation négative, je dis oui, chez celui chez qui il y a toujours du poisson, de la viande, avec une connotation, soit moqueur, d'accord, sarcastique, là, c'est considéré Lashon Hara. Par contre, et là, il nous sauve de beaucoup de choses.
Lashon Hara poussé.
D'accord. Par contre, je dis, bah, ça,
là, c'est flagrant.
Alors, je sais que il me semble que le Rafet Sraïm n'est pas d'accord avec ça, mais c'est le chef de Admor HaZaken. D'accord.
Le Rafet Sraïm, il dit que tu peux le même bon. S'intéresser.
On va voir qu'Admor HaZaken, il va nous sauver de beaucoup de choses.
Il y a plein de choses. Hein.
Alors, Admor HaZaken, il dit maintenant, si moi je parle, et que moi je n'ai pas dit de manière sarcastique. Non, je l'ai dit comme ça, mais sans faire exprès. Celui qui va entendre, il va peut-être comprendre quelque chose de tordu. Là, j'ai pas fait Lashon Hara. Alors. C'est quoi le point de la Machloket? C'est très simple. Dans l'histoire de Myriam, d'où on connaît l'histoire du Lashon Hara? Myriam, elle a dit la Shonara sur son frère. Qu'est-ce qu'elle a dit sur son frère?
Pour faire de l'aide pour les enfants. Qui voulaient plus,
Qu'est-ce qu'elle a dit?
Il s'est marié avec une noire.
Il s'est marié?
Non, il voulait rencontrer sa femme, je crois.
Oui, alors, qu'est-ce qu'elle a dit?
Il faisait plus son devoir marital.
Alors, c'est du Lachonara, ça?
Non, c'était une réalité.
Attends, à qui elle parlait, Myriam, d'abord? À Aaron, c'est son frère. Donc, les deux frères sont en train de parler de leur troisième frère. Qu'est-ce qu'ils se disent matin, dis-moi? Il est fou, quoi. Il n'y a plus rien avec sa femme.
Oui, c'est l'étage de sa femme.
Ils n'ont pas dit ça pour lui pour nous taper dessus. Mon cher Benou n'était même pas au courant. Mm-hmm. D'accord. Mon cher Benou n'est même pas au courant. Ils sont en train de discuter comment on peut le raisonner, parce qu'il dit, attends, il est parti trop loin, pas bien ce qu'il fait.
Ils n'ont pas dit en même temps qu'elle était noire.
Oui, non, mais c'est, ils n'ont pas critiqué le fait qu'elle était noire. Ils ont critiqué Rachid clairement le fait qu'il a arrêté d'avoir des relations.
C'est comme ça, la lumière, là.
Ah oui, c'est pas ça. Et c'est pas du tout l'intention de Myriam. D'abord, il n'y avait personne qui a entendu. C'était une discussion entre deux à quatre yeux.
C'est pas noir.
Alors de là, l'Admor Hazaken y comprend que ça c'est seulement pour les. Ça, c'est, pourquoi on a reproché ça à Myriam? Seulement Myriam, parce que Myriam est une tzedekette. Mais qu'en vérité, si on voit dans la lachot de la Shonara, il n'y a pas de la Shonara ici. Elle voulait pas dire du mal. Elle voulait faire du bien, c'est son frère. Mais à son niveau, la manière comment ça a été dit, ça lui a été reproché. À son niveau. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le Lashon Hara? On a expliqué, c'est pour ça que je vous dis, comment on retrouve ça? Salah Admor Hazaken explique longuement dans son Shulchan Aruch. On va relire ensemble. Ve'amesaper bignu travero, celui qui raconte du mal de son ami. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit explicite que c'est du mal. Sous-entendu, si je dis quelque chose qui peut être compris en bien ou en mal et que moi je n'avais pas forcément envie de le dire de manière sarcastique, ça c'est pas la Lashon Hara. J'ai pas dit qu'il faut le faire, mais c'est pas ça la Lashon Hara. Selon l'Admor Hazaken, la Shonara, c'est quand c'est explicite. Ah, mais sa père, bignou travero. Une personne qui raconte du mal de son ami. Cette personne-là, Ashkula, donc on a dit Kavodazara, Vegilou Yarayot ou Shvichut Damim. Alors, on a dit ça, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de Avodazara, Gilou Yarayot et Shvichut Damim. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Avodazara, c'est l'idolâtrie. Comment on retrouve l'idolâtrie dans la Shonara?
Ta colère.
Non, pas de colère, du tout.
Les paroles en vain? Parler en vain?
Non.
Non. L'idolâtrie? Non.
Comment je retrouve ici l'idolâtrie?
Il y a toujours le, bon, le jeu, non?
L'idolâtrie, c'est pouvoir rendre responsable Dieu du fait que cette personne est mal.
Bon, on va continuer avec le deuxième et le troisième, vous allez me dire ce que vous trouvez. Le deuxième, on l'a dit, c'est comparé aussi à l'adultère. Quel rapport avec l'adultère?
C'est l'adultère parce que...
Tu trompes quelqu'un?
Hein, parce que ce qui va résulter de cette conversation, c'est quelque chose de tordu.
Alors,
tu vas tromper la personne.
Les enfants d'un adultère.
Un ami, on parle d'un ami, donc quelque part, tu vas le trahir.
Les enfants d'un adultère, ils sont en misère.
C'est pas tiré par les cheveux, mais.
Ouais, on va pas le rappeler.
C'est dans le.
Non, je comprends.
Tu salis sa réputation.
Bon, alors, moi, peut-être, celui que je comprends, c'est le troisième. C'est pas le meurtre.
Le meurtre, parce que voilà.
Non, on comprend.
Il blanchit, il rougit.
Pourquoi? Parce que voilà, quand tu fais. Parce que bon, tu. Le Lashon Hara peut tuer quelqu'un. Ça, on le sait. D'accord, le Lashon Hara, ça peut tuer quelqu'un.
C'est pas la même chose, c'est faire honte.
C'est
pas la Lashon Hara, ça, de faire honte.
Alors, faire honte au public, comment ça se fait? Comment ça se fait que c'est comparé aux trois?
Ça peut être la Lashon Hara en même temps.
Comment vous comprenez?
Non, c'était l'histoire avec Doeg et David Amel.
Bien, vas-y, oui. Continue.
Il avait dit qu'il avait raconté quelque chose à Shaoul, non? Il avait dit, oui, David, il était voir telle personne qui avait une arme, etc.
Oui.
Et ça avait entraîné la mort de je sais pas combien de personnes.
D'accord, c'est le meurtre.
Non, c'était ça. Il a, parce que la Lashon Hara, c'est la définition, mais en principe, la Lashon Hara, c'est défini de comme dire quelque chose qui amène quelque chose de négatif. Mais au départ, si par exemple quelqu'un il a fait du mal et que tu le dis, tu fais la Lashon Hara. Pourtant, c'est vrai.
Bon.
Donc.
Ça peut entraîner.
Ça peut entraîner une conséquence.
Le meurtre.
Ça d'accord. Peut entraîner un meurtre.
Non, mais c'est, dans
le meurtre, je comprends.
Le cas que je t'ai donné, ça entraînait l'idolâtrie, le meurtre et le.
Alors, le meurtre aussi, on comprend parce que la Gemara nous dit que le Lashon Hara tue trois personnes. Les trois personnes qui sont concernées.
Voilà.
Donc, c'est non seulement le meurtre de la personne qui est concernée, c'est même mon meurtre pour moi. Mais quel rapport avec l'adultère? Quel rapport avec l'adultère?
Je donne ma langue au charme.
Est-ce que quand tu fais du Lashon Hara sur quelqu'un, tu salis un petit peu ta réputation et de ce fait.
Quel rapport avec
peut-être qu'il pouvait être avec une personne, et voilà. Et...
Quel rapport avec Avodah Zara aussi?
Non, pas Avodah Zara,
je
le compte rendu, une copie la semaine prochaine.
Non. Bon, alors on va réfléchir ensemble. On va commencer par Avodah Zara. C'est quoi la définition d'Avodah Zara? Non, c'est important pour moi de développer, comme ça après on peut faire la suite. C'est quoi la définition d'Avodah Zara? C'est quoi Avodah Zara pour vous?
Bah, qui est une autre puissance que celle de Kadosh Baruch.
Très bien. Ignorer. Donc ça veut dire quoi? Très bien, vas-y, continue, oui, vas-y.
Ignorer Dieu.
Ignorer Dieu, ignorer quoi? Ignorer quoi?
Le sens. Ignorer que tout vient de Dieu.
Bien, voilà. Ignorer que tout vient de Dieu et que...
Et que même si cette personne, elle se comporte comme ça, finalement, peut-être que ça vient de Dieu. Que,
finalement, non, ah, attention. Non. Vas-y, vas-y, Jacob, tu as trouvé quelque chose là.
Oui, parce que si Hachem, il considère cette personne et qu'il la laisse vivre et qu'il la tue pas,
voilà.
Il peut certainement pas faire
donc,
ce que
moi je me sens, quand je fais la chaîne là-bas,
l'équivalent de Dieu,
voilà, je me sens juge.
Et donc tu le
dis. Oui, moi je pense que c'est pas bon.
Ah oui, donc je me mets à la place de Dieu.
Mais bien sûr, c'est évident. Le fait de juger quelqu'un, c'est-à-dire je me mets à la place de Dieu.
Et donc je fais ma place.
Ça, c'est Avodah Zara.
Mais si on peut, on a le droit de juger quelqu'un sur la vie.
Non, tout le monde juge.
Ah, mais on peut,
tout le monde
on peut
tout.
Ah non, pas du tout.
On juge tous, avec le Rahamim, avec l'In, on juge tous.
Oui,
alors,
tu comprends
quoi? C'est
pas la même chose. Là, c'est pas juger.
C'est pas juger.
C'est parler en mal sur quelqu'un.
C'est le juger quand
mais,
même.
Non, mais ce qui, ressemble au Vet Kochavim,
oui.
C'est le fait de juger et qu'il n'y a qu'un seul juge sur Terre, c'est le joueur au
coup.
Tout le monde juge. Alors, on est dans tous les cas, on est derrière Avodah Zara?
Tout le monde juge, parce que je comprends la question. Tout le monde juge, mais là, sauf que lorsque je décide...
La faute, c'est de juger. Si la faute, c'est de juger, on juge en bien ou en mal d'ailleurs.
Non, on juge contre Hachem, puisque Hachem a décidé de le laisser.
La faute, c'est de juger hors
de bien.
Alors, on peut juger.
On ne juge pas bien. Attends.
On ne juge pas bien.
On souhaite quelque chose de bien.
Donc,
là, quand tu parles en mal de quelqu'un, c'est-à-dire que tu as décidé, tu as jugé que cette personne-là, ce qu'il a fait, c'est mal, c'est pas bien.
Parler de quelqu'un qui a été puni par Akadosh Baruch Hu, quelqu'un de bien, qui a été puni par Akadosh
Baruch Hu. Je ne juge pas là, je ne le juge pas en bien, je souhaite quelque chose de bien, ou je raconte quelque chose de bien, c'est pas la même chose.
Bah, alors qu'Akadosh Baruch Hu, on a décidé
autrement. Là, oui, le fait que je raconte du Lashon Hara, c'est-à-dire que je décide que la situation qui s'est passée est une situation mauvaise, quelque part, comme on a expliqué, c'est comme si je me mets à la place d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que je ne me mets plus en tant que spectateur, je me mets en tant qu'acteur. Mais c'est fin tout ça, c'est très fin.
C'était hors cadre,
Très difficile.
Dans un bed-in, t'es dans un cadre.
Très difficile.
Dans un cadre normé, là t'es hors cadre.
Parce que tu passes ton temps à penser, pas à juger, mais à avoir une opinion.
Tout le monde juge. Parce que, ça veut dire que si quelqu'un a été condamné à mort par un bed-in ou par un Kadosh Baruch
Hu,
et qu'on a la compassion,
comment ça se passe
là, on est là on fait aussi du Avodah Zara parce que...
Parce que là, lui, il a dit l'intention, il faut que qu'elle soit mauvaise. Là, si tu juges et que la compassion...
Là, il dit que c'est le fait de juger, c'est le fait de juger à la place d'Akadosh Baruch Hu.
Ouais,
que l'on juge bien ou que l'on juge mal.
Non, on est parti du mal.
On prend la question.
Ah non.
Non, mais on est parti du mal.
Quel est le mal?
Tant pis, des fois, les tribunaux peuvent être mauvais.
Quelle est la faute? La faute, c'est de juger et de se placer à la place
d'Akadosh Baruch Hu. La faute, c'est de se placer à la place d'Akadosh Baruch Hu.
Par le jugement.
Mais
non, pas par le jugement. C'est, la faute, c'est que, enfin, je dis de tel que je comprends, la faute, c'est que mon appréciation des choses, d'accord, pour moi, a une valeur de... C'est pas seulement que je pense que c'est comme ça, c'est que, pour moi, c'est comme ça que ça doit être. Donc, c'est mauvais ce qui s'est passé. C'est pas je pense que c'est mauvais, ou bien ça devrait être comme ça. C'est, j'ai décidé que c'est mauvais.
Mais oui, imaginons quelqu'un, par exemple.
Donc, ça veut dire que c'est un peu comme l'Avodah Zara. L'Avodah Zara, c'est-à-dire que je me mets quelque part à la place d'Akadosh Baruch Hu, j'oublie qu'il y a un patron.
Imagine-toi que
je comprends ta question.
Non, mais
et parce que ça peut être le contraire, c'est quelqu'un qui, tu le vois, toute sa vie, il souffre. Et puis, dès qu'il commence à aller un peu mieux, boum, il arrive encore une embrouille.
Oui, j'ai compris, non,
c'est pas normal.
Mais d'accord, parce que ton postulat, c'était de dire qu'il y avait une mauvaise intention. Ta question, elle vaut très bien pour le Rav Ephraim, par exemple, qui te dit que même s'il n'y a pas mauvaise intention ou bonne intention, il y a quand même la Shonara. Mais toi,
là, c'est la mauvaise intention.
Le postulat que tu m'as
posé, oui, mais lui, il dit, la question qu'il pose, c'est que on peut retrouver la même chose en bien. Je peux juger quelqu'un en bien. Dans ce cas-là aussi, je sais comme si je fais Avodah Zara.
Mais non, il n'y a pas de question à se poser, puisqu'on n'est plus dans le postulat où...
D'accord, oui, mais c'est quand même un nuage comme Avodah Zara.
Qu'est-ce qu'il a dit, Jacob? Pourquoi c'est une faute? Pourquoi c'est l'Avodah Zara de
faire? On a du mal à arriver au cheminement.
Parce que il jugeait, et donc par son jugement, il remplaçait le jugement d'Akadosh Baruch Hu. Il se prenait pour lui.
Par son jugement avec une mauvaise intention.
Bon, c'est pas, on verra dans la suite. Même question. Alors,
il manque quelque chose.
Donc je pense que dans le cheminement, il n'est pas tout à fait malade.
Il manque quelque chose.
Alors, comment on fait?
Non, le cheminement, c'est ça. Le cheminement, normalement, c'est que celui qui est... Le cheminement, normalement, c'est que le fait que je parle du mal de quelqu'un, que je décide du mal de quelqu'un, c'est-à-dire que je me mets à la place d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis plus simplement en tant que spectateur, je pense que j'ai une emprise sur lui. D'accord, que j'ai le droit de décider si ce qu'il a fait c'est bien ou pas bien.
Enfin,
je comprends la question.
C'est sûr, c'est quand tu juges quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la personne elle va en jugement.
Oui.
Que par exemple.
Oui, mais qu'un rapport, je sais,
mais
ça
si.
Change pas. Oui,
si.
Non, ça change pas, si, je préfère que... Vodazara. Bon, maintenant on va avancer un petit peu.
Ça mange là-bas et donc tu vas entraîner une.
Ah, j'ai compris, moi. La question est ouverte.
Ouais, la question
est ouverte. On irait trouver une solution.
On a plein de questions ouvertes
d'ailleurs. Alors.
Kilou
et Arayo. Moi que je sache, j'en connais pas beaucoup, mais bon. Je crois la Kohes, Kilou, Obed, Avodazara.
Ah, mais Guy, j'ai bien une question ouverte.
Je crois la Kohes, Kilou, Obed, Avodazara. Donc on va parler de la suivante. C'est quoi la vera suivante, donc le nuage suivant, qui nous paraît un petit nuage, mais qu'en vérité c'est un nuage qui est très grand. Kol HaKohet Ki Ilu Ved Avodazara, tout celui qui s'énerve, qu'est-ce qu'on dit ?
Non, il faut la... Il
faut... Oui, mais c'est lié à ça. C'est lié à ça.
Donc tu verras, on reverra après.
D'accord.
Ok, très bien.
Alors, donc, j'étais en train de dire, Kol HaKohet Ki Ilu Ved Avodazara, tout celui qui s'énerve, c'est comme si qui fait Avodazara. D'abord, je voudrais conclure d'abord avec le Lashon Hara. Qu'est-ce qu'on a expliqué sur le Lashon Hara ? D'accord ? Dans le Lashon Hara, on a expliqué que... C'est quoi le problème du Lashon Hara ? Le problème du Lashon Hara, c'est que c'est quelque chose qui nous paraît anodin, mais en vérité, il y a un nuage, il y a un impact qui va être créé, une séparation entre Maneshama et moi, aussi fort que si j'avais fait ces trois verrottes. Bon, trois verrottes en nous, c'est-à-dire trois nuages. Maintenant, après, il y a l'exemple suivant. L'exemple suivant, c'est Kaas, la colère. Une personne qui s'énerve. Non ? A priori, il n'y a rien de mal. C'est quoi le problème quand on s'énerve ? Alors, Kol HaKohes Keilu Oved Avodazara, c'est comme si qu'il fait Avodazara. Quel rapport entre la colère et Avodazara ? Ça, c'est déjà plus simple. Le rapport entre la colère et Avodah Zara, c'est quoi ? C'est que lorsque je m'énerve, il y a ce qu'on appelle Gassout Arouar. Alors, Gassout Arouar, Admor HaZaken, il explique dans l'Écoute Torah. Gassout Arouar, ça veut dire, on a deux catégories de Gassout Arouar. Gassout Arouar, ça veut dire le fait que je pense que je gère quelque chose. Mais on a deux catégories. Vous avez des gens que, au fond d'eux, ils sont profondément persuadés que c'est eux qui gèrent tout ce qui se passe. Ça, c'est les plus graves. D'un autre côté, vous avez des gens qui... Au fond d'eux, ils savent que c'est pas eux qui gèrent ce qui se passe, mais des fois, ils ont des moments de faiblesse. Que extérieurement, ils ont un petit coup de colère, mais si tu lui poses la question au moment où il est énervé, au fond de toi, qu'est-ce que tu penses ? Il dira, oui, bien sûr, je crois en Dieu. Je sais que c'est Dieu qui fait tout ça, mais quand même, ça m'a énervé. On est d'accord ?
Oui.
Ça, c'est une deuxième catégorie. Donc, c'est deux catégories de Gassout Arouar. Gassout Arouar, donc, sont liées donc, à la grossièreté de la personne, c'est-à-dire jusqu'à combien il n'est pas croyant, entre guillemets. Il y a des gens qui sont pas croyants, même au fond. C'est-à-dire que vraiment, tu lui demandes, même au fond, il est persuadé que c'est lui qui gère tout. Il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes que non. C'est extérieurement, des fois ils vont être un peu énervés, mais intérieurement, toujours, ils savent que c'est Akadosh Baruch qui gère la chose. L'Admor HaZaken, là-bas, dans le Mamar, dans l'Écoute Torah, il amène encore deux exemples pour nous montrer, il appelle ça Gassout Arouar, c'est-à-dire la grossièreté. Grossièreté, ça veut dire, oui, la grossièreté, bon, grossièreté de la personne. Grossièreté intérieure et extérieure. Il parle de deux plaisirs qui existent dans le monde. D'accord ? Deux plaisirs qui peuvent concerner tout le monde, qui sont a priori cachères. Et qui peuvent être des plaisirs, qui peuvent pourrir une personne. Il parle des plaisirs des vêtements, et des plaisirs, ah oui, attendez, de la nourriture.
Il y a eu un film.
Ah, je connais
la
pas.
Voilà, les deux disqualifiés, d'accord. Toi disqualifié, toi...
Alors, il dit comme ça. Après, c'est chacun
bon.
À son niveau. D'accord.
Non, toi, t'es bon.
Il dit comme ça.
On a la colère, on a sur le
bon. Bon. Alors, écoutez bien la différence qu'il explique là-bas. Il dit, lorsqu'une personne...
Qu'est-ce que c'est du rationnel ?
Lorsqu'une personne il s'habille bien.
En gros, il faut être mince et mal sapé. Quoi.
C'est un bel exemple. Alors, vas-y.
Mince, mal sapé.
Ça, c'est grave. Mince et mal sapé.
Alors, donc, quelqu'un par exemple qui s'habille bien. Alors, écoutez bien.
Maintenant, tu peux être gourmand et mince.
Quelqu'un qui s'habille bien, messieurs, on reste réveillés. Quelqu'un qui s'habille. Pourquoi il s'habille bien ? Pour son kavod.
Du juif.
D'accord. Pour son kavod. Pour son kavod, pour être bien habillé. D'accord. Maintenant, je vous pose la question.
Il vient avec son temps. Parce que c'est un standard.
Parce que c'est un standard.
Parce qu'il doit travailler comme ça.
Non.
Tu peux bien t'habiller.
Quelqu'un qui a un plaisir de bien s'habiller.
Oui, il ne faut pas que ça tombe dans le...
Ça peur, quoi.
D'accord. Quelqu'un, un kiffeur. Il veut bien s'habiller. Il met toute sa tête dedans. Bon. Est-ce que le fait qu'il va bien s'habiller, ça va le valoriser? Oui et non. Ça va le valoriser extérieurement.
Oui.
Mais c'est pas que quand il va devant le miroir, il va dire « Ah, je suis bon à l'intérieur ». Non. Extérieurement, c'est bon. Ça va le valoriser. Ça, c'est un exemple de quelque chose, d'un ego extérieur. C'est-à-dire que c'est pas que ça n'a rien changé à l'intérieur. Mais extérieurement, lorsqu'il s'habille comme ça, il se sent bien. Il se sent « Ah, je me sens important ». D'accord ? Je sens que je suis quelqu'un. D'ailleurs, c'est très important. C'est pour ça que lorsqu'une personne a envie d'être en sport, il va mettre des vêtements sport. Lorsqu'une personne a envie de se sentir important, il va mettre des beaux vêtements. Pourtant, il ne va rien changer à l'intérieur. C'est pour l'extérieur.
Une certaine sensibilité pour l'extérieur.
Bien sûr. Maintenant, maintenant la Gemara Zaken Abel explique, il dit pour la nourriture, c'est encore autre chose. D'accord ? Pour la nourriture, il explique là-bas. Il dit, lorsqu'une personne a un plaisir de manger, mais attention, il y a plaisir et plaisir. Vous avez des gens qui ont, c'est presque de la goinfrerie.
Non, non, au contraire, c'est un épicurien, ils font attention au contraire.
Oui, justement.
C'est différent.
Mais c'est un épicurien goinfre.
Le vrai gourmand, c'est celui, qui va bien choisir ses bons aliments.
C'est ça, Zolel Vesové. D'accord ? Zolel Vesové, c'est-à-dire justement, c'est une personne qui est goinfre et c'est une personne qui met toute sa tête dedans. C'est quoi le problème ? C'est que là, c'est pas seulement quelque chose d'extérieur. C'est pas seulement il se dit, bon, pour les autres, je suis comme ça. Non, c'est pour moi.
Raffiné.
Moi, je vais manger, je vais kiffer. Comment il dit ? Kiffer Mara, je vais kiffer.
Non, c'est pas pareil, c'est pas pareil. La commandite, c'est... Non, non, c'est pas pareil.
Je me sens bien.
Je pense qu'il y a un raffinement, le
coup, d'accord.
Dans le sens, comme tu
dis non,
pour les vêtements.
Non, attention, c'est pas la même chose. Attention, c'est pas... je ne parle pas d'une personne qui a des goûts raffinés. Je ne parle pas de ça.
Mais c'est ça pour le vêtement.
Non.
Pourquoi tu
veux que
non, du vêtement ?
Je parle d'une personne qui a sa tête dedans.
Oui, c'est...
Non, c'est ma personnalité.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y a des gens que leur personnalité, c'est par les vêtements. Il y a des gens que leur personnalité, c'est dans quoi ?
C'est dans
la bouffe. Dans ce qu'ils mangent.
Non,
eh ben, les gens qui ont...
Ça existe chez les juifs, ça ?
Ah, ça existe.
Bien sûr.
Non, je vois des goyim comme tu dis.
Ouais.
Je le vois bien. Il y a des goyim comme ça, comme tu dis.
Bien sûr, ça existe.
Je vois pas des juifs qui sont enclins à...
Oui, parce qu'on n'a pas assez de nourriture variée.
C'est ça aussi. Bon. Parce que la kashrout ne permet pas de faire des plats aussi raffinés que les goyim.
Ah, t'inquiète pas, c'est bon. Donc,
le mec qui fait des boulettes,
quel est le problème de celui qui aime manger, j'ai pas compris.
Non, attention, non. Je parle pas d'une personne qui aime manger. Ça veut dire que, je vais bien répéter, laissez-moi dire deux secondes. Je vais expliquer ici, rappelez-vous ce que je vais expliquer. Je vais expliquer comment ça se fait qu'une personne qui s'énerve, c'est comme si c'était Avodah Zara. D'accord ? Donc, je vais expliquer qu'il y a deux catégories de personnes qui s'énervent. Il y a un énervement extérieur, il y a un énervement profond. C'est-à-dire qu'il y a des fois des choses qu'une personne qui s'énerve extérieurement, mais qu'au fond de lui, il sait très bien que c'est Dieu qui fait tout ça. Il y a une personne qui s'énerve il y a une personne qui s'énerve également intérieurement. C'est-à-dire que pour lui, ma personnalité, c'est moi qui décide. Alors, pour vous donner un exemple, pour expliquer comment il y a des fois des choses qui sont extérieures, des fois des choses qui sont intérieures, je vais donner l'exemple de ces deux plaisirs-là. Il y a des gens que leur personnalité est forgée par leurs vêtements.
Donc extérieur.
D'accord ? Donc l'extérieur. Mais ça veut dire que ces gens-là, à aucun moment, ils vont penser que parce qu'ils ont mis un beau vêtement, à l'intérieur, ça a changé quelque chose. Pas du tout. Sauf que pour les autres, qu'est-ce qui fait ma personne ? C'est mon vêtement. C'est ça ce qui fait ma personne. Il y a d'autres personnes que, pour eux, qu'est-ce qui fait leur personne ? C'est ce qu'ils mangent. Ce qu'ils mangent. C'est ça ce qui fait sa personne.
Avec les deux mains.
D'accord ? Avec les deux mains, comme ça. C'est ce qu'ils mangent. C'est ça ce qui fait sa personne. C'est un niveau, ça. Attention, c'est pas rien.
C'est un niveau ?
D'accord. Non, mais ça veut dire... C'est une personne que pour lui, comment il est quelqu'un ? Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis, c'est ce que je mange. Donc si j'ai pas mangé quelque chose de bon,
comme il disait,
aujourd'hui je ne vaux rien. Il est triste. Le gars, il a pas eu son bon plat. Bien sûr.
Le gars, il a pas eu quoi ?
Le gars, sa personnalité, c'est ce qu'il mange. Il a pas eu son bon plat. Il a pas eu son bon plat, il casse tout.
Il a pas eu son bon plat.
Oui, il a un bon plat qu'il doit avoir.
Mais
c'est ça ce qui fait que je m'appelle ce que je m'appelle.
C'est un gros plat.
Quantité,
mais c'est un plat que je veux.
C'est un gros plat.
C'est un gros plat.
Ça, ton référent, c'est le cachère, donc le maximum de ton référent.
Je comprends pas, moi, ton truc.
Alors, attention.
Non, je comprends pas. Autant je comprends sur le vêtement, tu as fait un distinguo entre être bien ou mal habillé. Autant ça ne veut rien dire. C'est pas une question de quantité, là.
Encore une fois. Je sais que j'étais assez fin, mais Rosa Kanaba, il explique longuement. C'est la question est qu'est-ce qui définit ma personnalité ?
L'extérieur ou l'intérieur ?
Laisse-moi finir. Qu'est-ce qui définit ma personnalité ? Quel impact ça a sur ma personnalité ? Il y a des gens qui n'en ont rien à faire de manger, mais les vêtements pour eux c'est très important, et que pour eux c'est ça ce qui définit la personnalité. Une personne comme ça, c'est seulement extérieurement que le vêtement va définir sa personnalité. Mais intérieurement, il sait très bien que le vêtement n'a rien changé. Très bien. Alors vous avez une autre personne qui pour lui, qu'est-ce qui définit ma personnalité ? C'est ce que je vais manger. C'est ça ce qui va faire ce que je suis. Et si j'ai pas ce que j'ai envie, je ne suis pas ce que je devrais être. D'accord ? Ça veut dire comme ça, c'est-à-dire qu'une personne qui pour lui, qu'est-ce qui me fait que je suis comme ça ? Qu'est-ce qui me donne ma personnalité ? C'est la table à laquelle je vais manger, c'est ce que je vais manger. Ça c'est très important pour moi. D'accord ?
Il se met en colère maman, je suis là.
Bien sûr. Ça correspond à celui qui se met en colère mamache. Pourquoi ? Parce que celui-là, c'est pas seulement envers les autres. C'est même envers lui-même. Il dit, qu'est-ce qui me rend un homme? C'est ce que je mange. C'est seulement un exemple que je donne. Ça veut dire que vous avez des gens qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont annulés à Kadosh Baruch Hu et que c'est à Kadosh Baruch Hu qui gère tout. Mais extérieurement, envers les autres, ils ont envie de bien se taper pour avoir l'impression d'être quelqu'un envers les autres. Vous avez une autre personne que non. C'est pas envers les autres, c'est envers soi-même. Comment il se sent quelqu'un? C'est lorsqu'il va kiffer. Et s'il n'a pas eu son kiff, il se sent moins que rien.
Je comprends l'idée, c'est plutôt d'accord d'exister pour soi-même.
Voilà, exactement. C'est comment je sens que j'existe, c'est quand je kiffe.
Pour les autres, pour le regard des autres. Si j'existe pour moi-même, c'est à travers ce que exactement je vais manger. C'est un plaisir personnel. Kiffé, alors que le vêtement, kiffé, c'est une satisfaction que voilà je vais tirer du regard des
je
autres.
Je vais donner un exemple peut-être plus moderne. Alors, je vais donner un exemple plus moderne. D'accord. Il y a des gens, que pour eux, comment ils vont se sentir qu'ils existent, c'est quand ils montrent aux autres qu'ils kiffent. Par exemple, je vais acheter une belle voiture, je vais payer des vacances, je montre aux autres que je kiffe. Et pour moi, c'est ça ma personnalité. Maintenant, au fond de l'étudiant, est-ce que vraiment tu kiffes?
Non.
Il dira non, au fond de moi, je kiffe pas spécialement. Mais c'est quoi ma personnalité? C'est quand je montre aux autres que je kiffe. Ça, c'est déjà un niveau, c'est déjà pas mal ça. Parce qu'au fond de lui, puisqu'il sait que c'est pas un kiff, c'est une chose. Mais là, t'as un deuxième niveau.
Attends,
c'était une personne qui non seulement il veut montrer aux autres qu'il kiffe, mais c'est quoi sa personnalité? Qu'est-ce qui crée sa personne? C'est les kiffs qu'il a. Et s'il n'a pas ses kiffs, il sent comme s'il est moins que rien. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Parce que cette personne-là, ça veut dire que qu'est-ce qui forge sa personnalité?
C'est
son plaisir. Ça, c'est très grave.
Curieux,
il y a d'autres personnes que pour eux, qu'est-ce qui forme leur plaisir? C'est la galerie. Qu'est-ce que je vais montrer aux autres? Oh
effacer la galerie.
Ça, c'est les juifs.
Ça, c'est les juifs, voilà.
Effacer la galerie.
Ça, c'est d'accord les juifs d'à côté. Voilà. C'est pas les juifs dedans. Mais ce que tu dis, les épicuriens, c'est pas les juifs.
Il y a des gens, je te dis, il y a des gens, c'est un...
Bon.
C'est
tu vas jamais dans un restaurant, tu vas jamais dans un restaurant, le mec te dit, tu veux que je te fasse kiffer? Tu veux que je te fasse kiffer?
C'est ton travail.
Jamais. Non, mais le mec, il dit, ah ouais. Et
bon, moi je vous pose une question. Le plafond à 120 cm, c'est pour les autres ou pour soi? C'est ça la question.
On veut donner, on veut...
Le plasma, 120 cm.
Ça dépend...
Non, est-ce que c'est pour la galerie ou pour son kiff? Attention, écoutez bien la question.
C'est les deux.
Ça dépend des gens.
C'est les deux.
Est-ce que c'est pour quand les gens vont venir, je dis regarde mon écran? Mais moi je m'en fiche d'avoir un écran comme ça, ça me change rien. Ou bien c'est pour moi que lorsque je vais voir un film, je vais être dedans.
Alors attends.
Tu as les deux?
Oui, j'ai le droit d'avoir les
deux. Si on le dit pas, c'est pas
attention.
Tu veux l'avoir à l'écran.
Si t'as le deux, attention.
Si c'est pour faire passer des cours du rabbi de Lubavitch. Est-ce que c'est bien ou pas?
C'est sûr, c'est bien.
Alors moi, j'ai une autre catégorie de... Dis-moi ce que c'est alors. Je connais des gens...
C'est important pour moi de m'arrêter sur chaque ligne, parce que je pense que c'est des sujets très très importants. Il y a des nuages.
Il y a des gens qui s'habillent mal, d'accord?
Oui.
On avait dit que je...
Non, on parle pas de moi.
D'accord.
Pire que moi.
Bon,
d'accord? Ils s'habillent chez Castorama, tu vois?
Bon. Castorama?
Chez Castorama.
Castorama, ils font des vêtements?
Oui, ouais, mais tu sais...
Ah,
ouais,
bon,
ce que je veux dire.
D'accord.
Bon, les gens qui s'habillent...
Pas exagéré quand même, laisse-moi rassurer, il va pas aussi long.
Bon, alors, ils s'habillent mal, d'accord? Ils mangent pas beaucoup. Par contre, leur kiff, c'est pas ça. Leur kiff, c'est, à un moment donné, de te dire tout ce qu'ils ont.
Non, ça, tu l'as déjà donné l'exemple, là, il y a
quelques années.
Il y a quelques années de ça.
C'est plus fort que ça.
Non, c'est la galère, ça.
Mais cela, c'est pas vrai.
Parce que, comment aurait été, qu'est-ce qu'aurait été la deuxième catégorie?
C'est
celui que son plaisir, c'est pas de dire qu'il a. Attendez, écoutez. Son plaisir, c'est pas de dire qu'il a, c'est d'avoir.
De posséder.
Alors, au début, c'est son plaisir, et à un moment donné, attends, ça c'est très subtil. Le gars, pendant des mois et des années, il fait le pauvre, t'as envie de lui donner la zaka, si tu veux, et à un moment donné, ça peut être au bout de quelques années, il s'assoit, il te dit, écoute, maintenant, il te regarde bien dans les yeux. Et là, il te regarde bien dans les yeux, et là, tu sens que, il a atteint la jouissance maximum, il te dit, attends, je vais te dire qui je suis.
Bon, je vais vous donner encore un autre exemple, c'est important.
C'est quand même toujours passé.
C'est un bon nuage ou pas?
Si j'ai envie de me faire plaisir parce que j'ai envie de m'habiller, c'est des fois t'as envie de t'habiller comme tu dis parce que c'est pour ton travail ou t'as envie pour Shabbat ou dans
très bien.
Des occasions, t'as des cérémonies, mais, ce que tu veux bien t'habiller.
Mais c'est pas ça ce qui forge ta personnalité.
Tu veux bien manger, mais il y a pas forcément un calcul de dire je veux par rapport aux autres, je veux par rapport à moi-même.
Compris. Non, la question c'est est-ce que c'est ça ce qui forme ma personnalité? Je vais vous donner encore un autre exemple.
Des fois je vais chez des gens. Qui c'est existentiel?
Si c'est pas existentiel.
C'est plus, non, non, c'est pas seulement existentiel.
Il y en a pour qui c'est existentiel.
Deux secondes, je vais donner un autre exemple.
L'autre, c'est pas existentiel.
C'est pour ça qu'on a créé le sandwich.
Je vais donner un autre exemple. Regardez.
Gardez un peu d'humilité, c'est-à-dire de temps en temps.
Écoutez, messieurs. Messieurs. Des fois, je vais chez des gens. Écoutez. Messieurs. Et je vois, il me dit, regarde, tu vois ce tableau. Ça, c'est un tableau Picasso ou je sais pas qui. Bon. Alors, je me pose la question. Je me dis, est-ce que vraiment il est content d'avoir ce tableau, ou bien c'est...
Pour la galerie, ça.
Pour la galerie.
C'est pour la galerie.
Eh ben moi, je te dis comment ça se passe.
Ça, c'est pour la galerie.
C'est qu'au début, c'est pour la galerie. Lui, il n'a rien à faire. Mais bon, ouais. Comme c'est, ça fait in, donc il va venir acheter ce tableau. Mais après, avec le temps...
Ah oui, après, avec le temps...
Il va se mettre à être content d'avoir ce tableau.
Bien sûr, parce que les gens qui vont venir le voir, ils vont...
Pas pour les autres. Il va être content, il va voir le tableau, il va dire... C'est un beau tableau.
C'est le regard des autres qui doit rendre...
Quel beau tableau. D'accord. Et c'est ça que tu veux expliquer, Slade Morazakan. C'est la même chose avec le casse, avec la colère. Au début, quand on s'énerve, c'est seulement une colère extérieure. C'est-à-dire, je dis non, en vérité, je suis pas énervé au fond de moi. Je sais que c'est Dieu qui gère tout ça. Mais bon, j'ai un moment de faiblesse. Mais après, avec le temps, quand on commence à s'énerver, on s'énerve, on arrive au deuxième niveau de la colère. C'est qu'après, on vit la chose. Et qu'on est persuadé que c'est moi qui gère et que je dois m'énerver parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Voilà le procédé. Mais je vais donner l'exemple. Alors, justement. Je continue avec l'exemple que je donnais tout à l'heure.
Il y a d'autres secondes. De colère.
Tu vas prendre par exemple une personne, d'accord ?
À ce moment-là, il y a des colères quand même.
Deux secondes. Tu vas prendre par exemple une personne qui aime bien manger. Pourquoi elle aime bien manger ? Deux catégories. Encore une fois, tu es toujours dans les deux catégories. Tu me suis, Yves, c'est avec moi ?
Oui.
D'accord ?
Tu l'as énervé là.
C'est une personne que pourquoi il aime bien manger ? Il aime bien manger parce que bon, il veut bien manger, c'est tout.
C'était quoi le menu, ma femme, donc même.
Ah. Alors. Tu sais, ça sera chaud à point quand tu arriveras.
Udorable.
À point NG. Alors, je reprends l'exemple d'une personne qui on a expliqué qui aime manger.
On parle de quelqu'un d'orgueilleux.
Comment ça commence? Au début, c'est simplement un plaisir. Il aime manger, c'est tout. Ça ne veut pas dire sa personnalité. Mais après, avec le temps, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est une personne qui a la tête que dans ça. Dans la Torah, ça s'appelle Zolel Vesové. C'est-à-dire qu'il a la tête que dans ça, et que c'est ça ce qui forme sa personnalité. C'est-à-dire quand il se lève le matin, quand il dit qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, il dit, je vais manger.
C'est existentiel pour lui.
Pour lui, c'est si j'ai pas ça, je suis pas un homme. Pas à telle heure, je vais me faire un kiff, mais bon, c'est pas ça ce qui fait ma journée. C'est qu'à un certain moment, pour lui, qu'est-ce qui fait sa journée, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je vous dis, je vais donner l'exemple de la nourriture, mais on peut donner l'exemple d'un plasma aussi. Est-ce que le plasma est là pour montrer aux autres ou pour me faire un plaisir? Ou bien c'est ça ce qui fait que ma personne, que quand je me lève le matin, je dis « Ah, aujourd'hui, je vais profiter du plasma. Tout le reste, c'est pas important. Ça, c'est le plus important. »
Ça peut être l'argent aussi.
D'accord. Alors, encore une fois, c'est des choses, on prend beaucoup de choses qui ne sont pas forcément interdites. Elles sont pas forcément interdites, mais quand tu prends chacune des choses séparément, on voit qu'on peut retrouver des nuages qui sont aussi gros que la Vodatar. Ça, c'est le nuage du casse, la colère.
Je peux te poser une question sur l'ego, juste si tu peux répondre en 2 minutes, et sinon si c'est trop long on arrête.
Ouais.
Voilà, on prend deux personnes. Une personne qui est qui croit en Dieu, qui sait que sa vie est dirigée par un cadre de mort, et qui par conséquent ne l'organise pas trop. Ne l'organise pas sa vie.
C'est une avéra.
Ah, il a son CDR de la Torah, mais sa vie de travail, etc., il la vit et il a confiance en Dieu en disant bon ben. Je fais comme je dois faire, et puis après HM pourvoira. Et j'ai quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu, et qui organise sa vie, c'est-à-dire qu'il fait des études, son planning est très bien organisé, son relationnel est extrêmement bien organisé.
Je fais référence à personne.
On voit bien que 20 ans plus tard, il y a une différence énorme dans la vie des uns et des autres. Voire peut-être que celui-ci tombe dans la pauvreté, et celui-là est dans l'extrême richesse.
Mais je suis pas pauvre.
Alors, donc, tu veux en arriver où ?
C'est quoi la question ? Tu me dis celui qui se met en colère, il fait Avodah Zarah parce qu'il pense qu'à un moment donné, il n'a pas ce qu'il mérite, ou à un moment donné, il se croit juge, et donc...
Oui, mais encore une fois, la question c'est...
Akadosh Baruch Hu gère toute la vie de chacun.
J'ai compris, la clé de la réponse est la suivante. Est-ce que c'est la richesse qui forme ma personnalité ?
C'est le matériel.
C'est la question.
Est-ce que c'est la richesse?
Est-ce que la richesse c'est un outil?
C'est un outil, oui.
Ou bien, attention.
Mais la pauvreté.
Ah non, parce qu'à un certain moment, la richesse c'est plus un outil.
Je suis d'accord.
À un certain moment, la richesse c'est ma personne.
C'est ce que je souhaite, la personnalité.
Ça veut dire que quand je me lève le matin, à quoi je pense? Ah, j'ai de l'argent.
Ça devient le but de la vie. Mais la pauvreté n'est jamais un but de la vie.
Bien sûr, ouais.
D'accord.
Ouais.
C'est pour ça que je dis, lui, il tombe dans la pauvreté et l'autre devient riche.
Oh, non, il n'y a pas de rapport. Enfin bon, parce qu'un, il a décidé d'étudier la Torah et qu'il a la tête dedans. Je vais raconter une histoire. Une fois, il y avait un masquille. Masquille. Ah, j'ai compris la question. Une fois, il y avait une personne, un masquille. Masquille, c'est les gens qui sont émancipés. Masquille. Qui est venu voir un chassid et qui s'est moqué un peu de lui. Il lui a dit, oui, chez nous, masquille. On pense beaucoup à notre futur, on pense à notre futur, à notre avenir, etc. Et vous, regardez, vous pensez pas trop à votre avenir, vous vivez au jour le jour. Il a commencé à se moquer de lui, il a dit, nous, on fait des études, etc. Alors, chassid, il a répondu comme ça. Il a dit, il y avait une maîtresse de maison qui avait l'habitude, tous les jeudis soirs, de faire le ménage à la maison, de nettoyer la maison, de nettoyer le sol. Et qu'est-ce qu'elle faisait avec l'eau sale, tous les jeudis soirs? Elle prenait cette eau sale, elle la mettait devant la vache. Et la vache, elle mangeait de cette eau sale qui avait un goût particulier, et pour elle, c'était un délice. Pour elle, cette eau sale, c'est un délice. Bon. Comme ça, tous les jeudis soirs. C'est le ménage, elle se dit, bon, au lieu de le jeter, je vais le donner à la vache, et elle kiffe, pourquoi pas. Tant qu'à faire, pourquoi pas. Une fois, il raconte le chassid, la maîtresse de maison, elle a oublié. Elle a fait le ménage, elle a pris le seau, et elle l'a jeté dans les égouts. Et la vache, elle a vu qu'elle n'a pas eu son seau. Donc elle commençait à regarder la maîtresse de maison. D'accord? Qu'est-ce qu'elle a la tête dans la vache à ce moment-là? Elle s'est dit, oui, certainement la maîtresse de maison a caché le seau parce qu'elle va le manger elle. Elle a répondu, c'est la même chose.
Donc la vache c'est qui? C'est le Askala, c'est celui qui est le meurtrier. Le seau c'est quoi? C'est la culture.
Ça veut dire que bien sûr qu'il faut donner, bien sûr qu'il faut accorder de l'importance au seau. Bien sûr, mais ça reste un seau de
d'eau sale.
D'eau sale. On en a besoin, certes, mais il faut pas perdre de vue. Oui. D'accord. Alors, donc
lui,
je compte.
Lui il est pauvre.
Quoi?
Lui il est pauvre.
Oui, mais là, encore
il
une fois, c'est pas tu poses pas la bonne question.
Il est peut-être plus tranquille que lui.
Voilà, est-ce que c'est la finalité? Est-ce que ça le dérange?
Peut-être qu'il est plus tranquille. Il y en a qui repoussent.
Attends, non,
il y en a qui repoussent.
Moi, je peux t'assurer.
Arrête de travailler alors. Si ça
non, c'est pas du ça. Moi, je peux t'assurer.
Si la pauvreté n'est pas dérangeante.
Je peux t'assurer que lui, il est plus heureux dans sa vie que l'autre avec sa richesse. Ça, je peux t'assurer à 1000%. Comme il dirait, je mets ma main dans le feu. Bon, enfin, grâce à Shalom. Ça, je suis sûr à 1000%. Que pauvre comme il est, avec les galères qu'il a, il est plus heureux dans sa vie que l'autre. Ça c'est clair. Pourquoi? Encore une fois. Parce que sa personnalité, c'est pas l'argent. Sa personnalité, c'est la Torah.
À un moment donné, tu échanges sa vie contre l'autre, même pendant une journée, tu donnes la possibilité d'interférer.
Même pas en rêve.
Une journée, il va te dire, je vais revenir comme je suis l'autre, pas comme il est en train de vivre.
De toute façon, je dis pas que c'est normal ce qui se passe. C'est ça que le rabbi nous encourage à être dans le monde, à ne pas, à ne pas rester dans des collèles, etc. Bon, ouais. C'est une autre question. D'accord? Un juif nous encourage à être dans le monde et qu'un juif il doit vivre bien.
Faut joindre l'utile à l'agréable.
Mais d'un autre côté, c'est pas une fidélité.
L'utile, c'est l'argent, l'agréable, c'est la Torah.
Alors, donc Vechen, pareil. Mishayeshbo Gatsu Taruar. Voilà, on vient d'en parler. Voilà. Donc celui qui s'énerve, c'est comme si Kifa Vodazara. On a expliqué qu'il y a deux catégories d'énervement. Il y a une personne qui s'énerve extérieurement, il y a une personne qui s'énerve intérieurement, que réellement il est persuadé que c'est lui qui gère. Et de la même manière, nous dit la Gemara dans Sota, Kol Mishiyashbo Gasuta Ruach. Celui qui a Gasuta Ruach, comme on a expliqué, ça veut dire celui qui est grossier. C'est quoi la grossièreté d'esprit? On a expliqué la même chose. Tu as la grossièreté extérieure, la grossièreté intérieure. La question c'est, est-ce que je le fais pour la galerie, ou est-ce que je le fais pour moi? Et ça, c'est des exemples que sur chacun de ces exemples, la Gemara, des Gemara Meforachot, des Gemara clairs. La Gemara, elle dit sur ça. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit sur ça? Elle dit dans chacun. Ça, c'est comme Avodah Zarah. Ça, c'est comme le meurtre. Ça veut dire quoi? C'est comme le meurtre. Ça veut dire qu'on crée un nuage aussi fort que ça. Ah, c'est pas une avéra explicite. Peut-être c'est pas une avéra explicite. Mais l'effet que ça a sur ma personne. Lorsque ma personnalité va être forgée, non pas par la Torah, mais par de l'argent, est-ce que c'est une avéra Torah? Non, j'ai pas fait d'avéra. Mais une personne comme ça, il vient de faire un nuage aussi gros que la Avodah Zarah. Alors qu'après, il s'étonne pas lorsqu'il ouvre un sefer, lorsqu'il ouvre un sidour, il essaye de prier. Ça passe pas. Pourquoi ça passe? Bien sûr, il vient de faire la Avodah Zarah. C'est comme si il est dans une église. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que pour lui, sa personnalité, c'est ça, c'est l'argent. Alors après, comme on a expliqué, c'est soit extérieurement, soit intérieurement, mais c'est ça, sa personnalité. Alors après, il va pas s'étonner. Ça veut dire que c'est un travail de fond qu'on doit faire ici. C'est un travail de fond qu'on doit constamment réfléchir. Quelle est ma personnalité? Et c'est ça le deuxième point que dit l'Admor HaZaken. On continuera la semaine prochaine sur ça. C'est ça le deuxième point. Le deuxième point qu'on a dit, c'est se casser. Comment je me casse? Je dois me poser des questions. Je me dis, mais finalement, qu'est-ce qui forme ma personnalité? Qu'est-ce qui fait le moi? Qu'est-ce qui fait le jeu?
Ah, mais tu vois,
qu'est-ce qui fait le jeu, ce que je... Oui, qu'est-ce qui fait le moi?
Tu vois, il faut un jeu, quand même.
D'accord. Alors, pareil, tu vas avoir des gens qui vont te dire, extérieurement, ce qui fait le moi, c'est quoi? C'est l'argent que j'ai, mais au fond de moi, je sais que ce qui fait le moi, c'est la Torah. Mais t'as des gens que même ça, ils ont pas. T'as des gens qui te disent, non, qu'est-ce qui fait le moi, le jeu? Qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie? C'est le kiff, c'est l'argent, etc. La Torah, c'est secondaire. C'est très grave. Même si on n'est pas arrivé à ce niveau-là, qu'on arrive à un niveau que, au fond de nous, on sait que ce qui fait notre vie, c'est la Torah, ce qui fait notre personne, c'est la Torah, mais que extérieurement, ce qui fait notre vie, ben, c'est nos kiffs de tous les jours, ça, c'est un problème, ça fait des nuages, tout ça. Et oui. C'est comme ça qu'on doit se casser.
Oui, le kiff, ce soit la Torah, quoi.
D'accord? Non, je parle pas du kiff, là, je parle de ma personnalité. Qu'est-ce qui forme ma personnalité?
Si, quand même.
Quelle est ma vie? Ma vie tourne autour de quoi?
L'essentiel.
C'est quoi l'essentiel? Tu comprends, qu'avec ça, je vais répondre à la question de... Je ne dis pas que quand je mange un bon plat, il mange un bon plat, il aime. Tu vas dire, n'aime pas. La question, c'est, est-ce que ça, c'est ma vie? Oui ou non? Ça, c'est la question. Vecha'ena rabot bigmara. Voilà, les nuages. Vecha'ena rabot bigmara. On a comme ça plusieurs exemples dans la Gemara. Dieu préserve, d'accord? Plusieurs exemples dans la Gemara de, par exemple, ceux qui ne gardent pas Chola Moed comme il faut. D'accord, celui qui fait honte à Chol HaMoed, ou bien encore d'autres exemples comme ça, qui comme si un exemple.
Honte, c'est laver les vêtements par exemple à Chol HaMoed.
Déjà travaillé.
Non, c'est pas travailler. J'ai pas dit ça. J'ai dit faire honte à Chol HaMoed.
C'est quoi, laver les vêtements?
Non, par exemple, c'est une personne qui... C'est une personne qui travaille, mais qui est dégoûtée de travailler.
Il est obligé,
il a pas le choix. T'as une autre personne qui en a rien à faire. Ça fait des nuages, tout ça. Tu vois, chaque fois qu'on zappe et qu'on dit j'en ai rien à faire...
De Shabbat, de Yom Tov, de...
Parce que ce qu'il y a de spécial en Chol HaMoed, c'est que Chol HaMoed, on a le droit de travailler. On peut trouver des permissions.
Ah ouais.
Et donc, le fait de zapper, de dire ouais, ça y est, on a marre, on a déjà fait deux jours de fête, ça va, c'est bon.
Là, on n'est plus dans la Torah, là. Hein. On est au-delà de la Torah.
Bien sûr. Mais, pourquoi la Mourazaké nous dit ça? Parce qu'il veut te dire, il veut t'expliquer, tout d'abord, il y a des grandes avérotes qu'on fait... Non, mais je vais t'expliquer
maintenant qu'il
s'en dit. D'accord.
C'est une Torah, c'est pas interdit.
Non, c'est la Torah que tu comprends pas forcément quand tu l'as dit.
Encore une fois, je vais expliquer. Je vais répondre à la question de Guy, on s'arrête ici. D'accord. L'Admor HaZaken veut nous expliquer comment on crée des nuages dans notre vie. Tout d'abord, on peut avoir une personne qui fait vraiment des grandes avérotes. D'accord. Comme les pertes nocturnes, etc. Les pertes volontaires nocturnes, ça c'est une vraie avéra. Ou des vraies avérotes, que... D'accord. Volontaires. Vraie avéra. D'accord. Il y a des vrais avérotes. Bon, ça c'est des gros nuages, ça c'est clair, ça c'est évident. À part ça, nous dit l'Admor HaZaken, même si c'est un petit nuage, l'accumulation de petits nuages va former forcément un gros nuage. Et donc ça forme une séparation. Et donc là, ça doit me casser, ça. Je veux dire, comment c'est possible que je suis ce que je suis? Après, nous dit l'Admor HaZaken, il y a encore une troisième chose. C'est qu'il y a des nuages qui nous paraissent petits, mais qui sont en vérité gros. C'est quoi ces nuages qui sont petits qui nous paraissent gros? C'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est des choses qui ne sont pas des avérotes, mais sur lesquelles la Gemara elle dit que c'est comme s'il était Avodah Zara. C'est comme s'il a fait ci, c'est comme s'il a fait ça. Pour finir avec cette histoire, c'est écrit que celui qui vient à une Brit Mila, hein, c'est comme s'il a jeûné 84 jeûnes.
Oh.
Oui.
On n'a pas dit ça.
Alors une fois, il y a un rap qui a dit comme ça. Il a dit, pour quel... sur quelle avérote on dit que... Non mais c'est en plus, c'est vrai, celui qui mange la soude de la Brit Mila. Pas celui qui assiste à la Brit Mila. Si tu n'assistes pas à la Brit Mila, mais tu manges à la Souda, c'est plus important. Alors, une fois, il y a un raf qui a dit comme ça. C'est bien ce qu'il a dit. Il a dit, dans quel cas on utilise cette permission de dire que venir à une Brit Mila, par exemple, enfin, manger dans une Brit Mila, c'est comme si qu'on a fait 84 jeûnes. C'est seulement pour les Averot que les Rahamim, ils nous ont dit, que celui qui fait ça, c'est comme si qu'il a fait Avodah Zara. Ça veut dire que la Brit Mila, c'est comme 84 jeunes, ça marche seulement pour les Averot, on dit, c'est comme si qu'il a fait Avodah Zara. Mais ah, quand tu fais vraiment une Avera, il n'y a pas des comme si. Comme ça, il a dit. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'on comprend d'ici, c'est quoi? C'est que là, on a assez d'éléments pour se casser, là. Attends, imagine.
Il est cassé les autres.
D'accord. Ah non.
Ah non, pas cassé les
autres. De Shalom. Oui. Si on peut résumer en un mot, parce que je veux pas que ce soit abstrait.
En théorie.
D'accord.
En théorie.
Si on peut résumer en un mot le cours d'aujourd'hui, c'est comment je me casse, je vais me poser la question. Comment je me casse? C'est, on a expliqué ce que la Gemara voulait dire lorsqu'elle dit que lorsque tu fais la colère, par exemple, c'est comme si tu fais Avodah Zara. Pourquoi c'est comme si tu fais Avodah Zara? Parce que justement, on a expliqué, lorsqu'une personne s'énerve, ça veut dire qu'il montre que c'est ça ce qui crée sa personnalité. Donc c'est ça la question que je dois me poser. Je dois me poser la question constamment. Je dis, qu'est-ce qui forme ma personnalité? Et si c'est des choses tordues qui forment ma personnalité, ça crée des nuages. Voilà. La colère, la grossièreté d'esprit, la nourriture, les vêtements, le fait d'ignorer la tzedaka. C'est des exemples, ça c'est des nuages. Qu'est-ce qui forme ma personnalité? Qu'est-ce qui forme ma personnalité? Qui, c'est qui moi? Et quand on réfléchit, quand on a la réponse
qui,
à cette question...
C'est qui je?
Oui. Qu'est-ce
moi,
qui...
C'est différent.
Ça veut dire comme ça. Quand je réfléchis, voilà, je me lève le matin. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Allez. Pourquoi je suis content d'être là aujourd'hui?
Moi je pense.
Le matin, tu te lèves, tu te poses des questions, tu te dis pourquoi je suis content d'être là aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui?
Je me suis bien habillé.
D'accord. Bon.
Je vais bien manger.
D'accord.
Je, à midi, j'ai rendez-vous du parc.
J'ai bien kiffé.
Bien kiffé. Ce soir, je vais aller voir un film.
Ce soir, il y a un bon match.
Voilà. Ce soir, je vais voir un bon match.
Avec un bon...
D'accord.
Et j'ai passé
avec
la une journée...
Bière, bien habillé.
Et qu'est-ce que tu as fait de la Torah?
Ça veut dire que...
Non.
Ça veut dire que toute la journée... Ça veut dire que toute la journée, même lorsqu'il va galérer au travail, lorsqu'il va se lever, lorsqu'il va se tirer, il va dire, ah, il y a mon match qui m'attend.
C'est ça.
Bien sûr. Ça, c'est pas sourd. Est-ce que c'est sourd?
Non.
C'est pas sourd.
On a négligé les...
Mais chaque fois comme ça qu'on met la Torah comme ça au plan secondaire, ça crée des nuages. Ouais. Nuages. C'est des gros nuages. C'est des nuages d'Abodazara, ça.
C'est pour ça que je suis pour que le kim soit...
Après, il faut pas s'étonner, parce qu'après, on rentre dans un cercle vicieux, parce que plus tu avances, et plus c'est des nuages. Alors après, du coup, ça te dit plus rien.
N'oublions pas qu'on est quand même accroché à une corde, et on est au fond du buis, et...
Ah oui, il y a plus de lumière, là. Il y a plus d'essence. Comment on fait? Le moteur, il marche, il y a plus d'essence.
Bon, faire une cure de désintoxication.
Que la neige.
Pour rentrer à l'Yeshiva.
Revenir la semaine prochaine. On va revenir en latitude Kinovski.
Pour formater nos esprits.
Ah, c'est pas si simple. Non, la question qu'on va se poser la semaine prochaine, c'est comment on supprime le nuage?
Comment formater?
Là, c'était pour nous casser tout ça, pour nous dire, écoute, tu crois que tu fais rien?
Faut que le kiff soit la Torah.
Mais...
Oui, on a dit déjà.
Non. Dans le fond des choses, soit la Torah.
J'ai pas dit
extérieurement aussi.
Non, c'est pas ça. Il faut que ce qui forme ma personne, c'est la Torah.
Mais d'accord, mais si je...
C'est pas la même chose.
Oui, ça doit être ton but.
Oui, mais si tu as les mounas, que ce qui forme la... Et puis qu'à un moment donné, tu kifferas des matchs de foot, etc. Quelque part, tu fais nuage.
Mais c'est pas ça ce qui forme ma personne. Alors ça, tu as raison. Ça, c'est extérieur, mais c'est pas intérieur. C'est pas ça qui forme ma personne.
Non, mais tu vas faire un nuage quand même.
Oui, je fais aussi un nuage. Et parce que extérieurement, c'est un problème.
Et tu rentres dans un cercle vicieux.
Oui, tu as raison. C'est clair. Voilà, en deux mots, c'est ça. C'est que, il y a des gros nuages. Bon, ça c'est clair. Des grosses avérotes. Il y a des petites avérotes que une avec une, ça fait des gros nuages, ça fait un gros nuage. Et il y a des avérotes qui nous paraissent légères. Mais en vérité, ces avérotes-là, les rabbis nous disent qu'ils ont le même effet, une grosse avéra. Pourquoi? Parce que la logique qu'il y a derrière, c'est la même. Les exemples qu'on a donnés.
Regarde par exemple le paysan, par exemple.
Oui.
Le paysan s'habille mal, en principe.
Ah,
oui, ça lui dit rien. Oui.
Mais lui, il kiffe faire de l'engrais.
C'est quoi son but?
Il se lève le matin. Ah,
je vais faire
le
Le plaisir du paysan, c'est quoi? C'est quoi sa journée?
T'as raison, mais c'est vrai. Il se réveille le matin, il voit son tracteur, il le nettoie.
Oui, mais ouais, excuse-moi.
Il le nettoie, son tracteur.
Non, le tracteur, c'est un moyen pour lui.
Quand je vois...
Non.
Attends, mais...
Attends,
le kiff du paysan, c'est sa terre. Quand je vois des goyim, ma parole, comment ils nettoient leur voiture. Ils nettoient les pneus.
Les gens.
Ils nettoient comme ça, ils l'astiquent.
Tu sais qu'à chaque fois que j'ai nettoyé ma voiture, j'ai fait un accident derrière. Du coup, je l'ai plus...
J'astique pas ma voiture. Mais quand même,
je nettoie plus depuis des années.
Est-ce que c'est pas un manque de carotte par rapport à ce que j'ai nettoyé?
J'ai pas dit ça.
Parce qu'à un moment donné...
Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu veux utiliser encore ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que tu vas être mal habillé. Chas de shalom. Ce que j'ai expliqué, c'est que... Est-ce que j'ai ma tête dedans?
Je fais juste un petit coup de...
Est-ce que c'est ça ce qui forme ma personne?
Je mets pas assez... Je passe pas des heures.
Bon, alors maintenant, je voulais voir la question qu'on a eue tout à l'heure. C'est quoi la question qu'on avait, Guy?
En quoi le Shonara ressemble au...
Avodah Zara, Gilou Yarayot,
et Shonara.
Non,
elle
n'a pas posé
la question. On a un peu compris. On tuait, on tuait celui qui écoutait.
L'adultère, oui.
Ben là, on a dit simplement qu'on oublie...
C'est la même chose, l'adultère c'est dit à ça, il faut que je...
Hein?
Bon, pour la prochaine fois, tu prépares.
A priori, c'est parce qu'on oublie Dieu.
Je vois s'il n'y a pas ici.
On nous dit que Dieu il est entre toi et moi, finalement, quand je te parle, on n'est pas tout seul, il y a Dieu qui est au milieu, donc le fait d'oublier...
Dieu il est pas au milieu, il est
pas... Qu'en parle avec l'adultère, par exemple.
Oui.
C'est quoi l'adultère?
C'est une relation interdite.
C'est la même chose. Ça veut dire qu'une relation, encore une fois, ça on reprend à Avodah Zara, c'est la même chose. C'est que j'ai une manière de voir les choses interdites. Non, ça c'est la même chose. C'est la...
Oui. Quelque part, tu vas trahir quelqu'un.
Je me rappelle cette histoire, mais c'est l'histoire de David. Qui était, quand Doeg est parti voir le Shaul et qu'il a dit que David avait été à tel endroit qu'il avait donné une arme, alors qu'a priori il n'y avait pas grand-chose, mm-hmm. ça a provoqué, par la suite, quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a commis un adultère, et je sais bien comment mais ça vient de la liste.
Okay, mais qu'il n'y a pas que l'adultère, alors.
Ça provoquait un adultère.
Mais donc c'est un rapport avec un fait dans le passé qui a provoqué ça.
Oui,
mais aujourd'hui.
Aujourd'hui, il n'y aura pas qu'un adultère. En quoi le nuage que je fais est aussi grand qu'un nuage adultère? Tu comprends ma question?
Parce que tu parles des réactions en chaîne ou ce que tu veux. C'est pas... Après, tout dépend du scénario. C'est, ça passe pas toujours.
C'est quoi la définition de l'adultère? C'est quoi le nuage que crée l'adultère? Qu'est-ce qui se passe quand je veux faire l'adultère? Qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Attends, un adultère, c'est...
Tu prends quelque chose qui appartient
à quelqu'un. Tu casses un lien que Hacham, il a fait. Tu casses... Parce qu'un adultère, c'est un homme et une femme. Un mariage, c'est un homme et une femme. Toi, tu vas avoir une relation avec une femme mariée.
Attends, on va analyser deux secondes.
Elle va casser l'union entre...
Non, mais attends, deux secondes. Dans le cas de l'adultère.
C'est interdit, c'est une relation interdite, c'est pas adultère.
Exactement, il n'y a pas que ça.
C'est une relation interdite, toi.
Ah oui, c'est pas la...
Alors, dans la relation interdite. Dans la relation interdite, c'est quoi ça? C'est quoi le problème de la relation interdite?
C'est une abomination. Pas du tout.
C'est une abomination pour un
catastrophe. Bien sûr.
Non, pas forcément.
Quoi donc?
Non, c'est pas une abomination.
Si t'as une relation avec une femme qui n'est pas mariée.
Quelqu'un qui veut se marier avec sa sœur, en gros, c'est une abomination.
Pour quelque chose qui n'est pas à toi.
Pour un cas de je me retrouve.
Quelqu'un qui veut.
Pour quelque chose qui n'est pas à toi.
Il veut se marier avec sa sœur.
Trop de trahison.
Il n'est pas permis.
C'est interdit, mais en quoi c'est une abomination?
Forcément, se marier avec sa mère alors.
Comment il dit
avec sa mère?
Pourquoi
c'est une abomination? C'est pas une abomination.
À qui pour? Qu'est-ce qu'il dit?
Je suppose que.
Qu'est-ce qu'il dit à cas de je me retrouve? Parachat de Kippour.
Oui, non, c'est assourd.
Il dit que non, il dit que c'est une abomination. Akadosh Baruch Hu, il dit que c'est une abomination. Toutes ces relations qu'on déteint.
Je comprends.
Non.
Il dit pas ça.
Abomination pour certaines.
Sur certains, il dit que c'est une abomination.
Il faut les mêmes formes.
Par exemple, les relations homosexuelles.
Voilà.
Ça, c'est une abomination. C'est écrit.
C'est la nudité de son père ou la nudité de sa mère.
Ah oui, il y a des choses que c'est écrit c'est une abomination, mais il y a des choses, il y a la grande majorité. C'est pas écrit c'est une abomination.
Par exemple, avoir une relation avec un animal, ça, c'est une abomination.
Ça, c'est une abomination. Bon, ça oui.
Pourquoi?
Là, il y a un aspect animal. Non, il y a un aspect animal.
C'est mélanger quelque chose qui n'a rien à voir l'un avec l'autre.
Non, mais il y a un aspect animal. Il y a un aspect plaisir animal.
C'est pareil pour le sexualité que tu disais.
Voilà.
C'est pas clair.
Mais le rapport avec... la question qu'on se pose, c'est si le problème, c'est de juger...
La porte.
Alors, dans ce cas-là, même en bien, on ne peut pas le faire. C'est ça la question, oui. C'est ça ce qui nous dérange ici.
Mais je pense que le problème c'est de juger négativement.
Ah ben non, ça change pas, c'est la même chose.
Si, si parce que par exemple, Moshe Rabbeinu, quand Hachem il a voulu détruire Israël, il est venu.
Il les a défendus, c'est pas la même chose.
Il les a défendus, donc défendre c'est juger quelque part.
Oui, mais moi aussi, mais moi je veux te dire plus que ça. Quand je dis la Shonara, je juge pas. Je raconte, c'est tout.
Non, parce que c'est ça le problème, c'est que la Shonara, d'après ce que j'ai compris, c'était même rapporté un fait qui était vrai.
Mais bien sûr, c'est ça la Shonara.
Ça, c'est la Shonara. Non, toi, t'as dit, c'est colporter quelque chose avec une
connotation négative. Non, mais attends. La Shonara, c'est vrai.
Il y a quelque chose qui nous échappe.
La Shonara, c'est vrai.
Non, colporter, on peut pas sortir, c'est vrai.
Mais il y a quelque chose qui nous échappe dans
Oui, dans l'adultère, oui.
Non, même dans le cheminement. Pourquoi c'est l'équivalent de ces trois fautes?
Ouais. On va voir,
on va réfléchir.
Bon, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a compris ce qui est clair.